Bonjour à toutes et à tous. Avant de se plonger dans le débrief de la Ligue des Champions et notamment de la qualification du PSG contre le Barça, un petit message pour vous rappeler que Cop Arena continue sa route. On a publié de nouveaux contenus récemment, notamment le deuxième épisode de Ma vie de footballeur, l'émission portée par Elias Baylif, où il parle notamment du but de la victoire, mais de plein d'autres choses, avec pas mal d'intervenants intéressants. Le dernier épisode de Tout simplement Ligue 1 aussi sur la saison 2014-2015 de l'OL, et notamment son losange. Il y a des articles aussi, le dernier banquet tactique de Christophe Kuchli, et il y avait une petite preview, une mise au point sur ce qu'avait fait le Barça ces dernières semaines avant le huitième de finale retour contre le PSG. Et on peut dire que Florent a visé plutôt juste. Nouveau programme aussi, introduction à la littérature footballistique. C'est porté par Gilles Juan, un ami très compétent, qui vous parle avec encore d'autres intervenants de la littérature et de comment elle s'applique au football. Donc rejoignez-nous sur coparena.com, abonnez-vous et vous pouvez d'ailleurs offrir des mois à vos amis et continuer à vous engager via d'autres moyens sur Coparena.
Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Et on retrouve Norbert et Daguette pour parler Ligue des Champions. D'abord, salut à Norbert, Florent Tenuti.
Salut Raphaël.
Et puis à Daguette, Christophe Kuchli. Comment ça va, Christophe?
Ah, j'aime bien à chaque fois tu dis bonjour à Florent. Et moi, tu me demandes comment ça va. Et bien, écoute, ça va bien. En cette soirée post-Ligue des Champions, voilà, tout va bien. Je suis content de pouvoir discuter un petit peu de football avec mon grand ami Raphaël.
Oui, puis ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait d'épisode de Vue du banc. Ça faisait quasiment une dizaine de jours, je crois, Florent, qu'on ne s'était pas retrouvés.
Une semaine.
Ah, qu'une semaine, d'accord. Je sais pas. Quand on fait pas deux épisodes, je suis perdu, je perds le rythme. On revient pour la Ligue des Champions et pour donc la qualification du PSG grâce à un match nul un partout contre le Barça à domicile. On parlera aussi après de l'élimination de la Juve et de la qualification de Dortmund, mais concentrons-nous donc sur la qualification des Parisiens. But de Mbappé à la 30e, but de Messi à la 37e. Avant qu'on se penche sur les thèmes tactiques et techniques de ce match, je vais donner les deux compositions. Du côté du PSG, Keylor Navas dans les buts, une défense à 4, Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, un milieu à 3, Paredes, Gay, Verratti, et une attaque, Mbappé, Icardi, Draxler. Côté barcelonais, nouveau système par rapport au match aller, Ter Stegen dans les buts, une défense à 3, Langlais, De Jong, Mingesa. Plus haut, Alba côté gauche, Dest côté droit, Pedri et Busquets au milieu ensemble, et Griezmann, Dembélé, Messi associés, même si on va voir que c'était pas forcément dans l'ordre que j'ai donné. Florent, tu avais écrit un papier très récemment sur Coparena sur les changements que le Barça avait effectués depuis la raclée subie à domicile contre le PSG. Un peu comme il y a 4 ans, où Luis Enrique avait changé pas mal de choses après l'échec à l'aller, Coman a bouleversé son équipe. Quels étaient les thèmes qu'on pouvait ressortir de ces quelques semaines avant qu'on aborde vraiment le match en lui-même?
Bah, les thèmes étaient très simples. On avait, alors c'était surtout visible évidemment lors des deux confrontations face au FC Séville. Donc le Barça était en 3-5-2 sur ces deux matchs-là, qui pouvait s'articuler en 3-4-1-2 sur les phases de pressing pour se calquer sur la relance adverse. C'est-à-dire on avait deux attaquants, Messi, Dembélé, sur les deux défenseurs centraux et trois milieux de terrain qui étaient en quasi individuel, sur les trois milieux de terrain adverses. Donc on avait un Barça beaucoup plus capable de presser, à l'inverse du match aller où il avait été extrêmement passif au milieu de terrain et il avait laissé totalement jouer les Parisiens. Donc on était en droit de s'attendre à ce que le Barça aille chercher Paris. Voilà, c'était quand même attendu. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi le fait, c'est directement lié au comportement justement du milieu de l'attaque, c'était d'avoir une ligne défensive assez agressive, assez haute, qui du coup peut laisser des espaces dans le dos. C'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était plus avec le ballon, c'était le repositionnement de Dembélé, qui était une vraie menace dans la profondeur, parce que évidemment, quand t'as trois joueurs pour relancer les trois défenseurs, et surtout quatre créatifs dans l'entrejeu avec Busquets, Pedri, alors c'était De Jong et Messi, habituellement lors des matchs face à Séville. Là, c'était un peu différent contre Paris, vu que Griezmann était là parce que De Jong avait dû reculer en défense. T'avais quand même des joueurs capables de donner des bons ballons en profondeur et surtout un joueur capable de la prendre avec Dembélé. Donc voilà, il y avait cette profondeur aussi que Paris n'avait pas eu à gérer à l'aller et qu'ils allaient devoir gérer au retour. Et bon, après avoir fait ce tour-là, ce résumé-là, Ça me revient forcément, je me demande vraiment si Paris a préparé son match en fait.
De Jong a été replacé derrière parce que Arojo n'est pas revenu à temps.
C'était ouais. Le joueur qui Piqué avait rechuté, oui. Je sais plus sur quel match.
Bah Séville, je crois. Il se pète. C'est pas contre oui. Séville où il se pète après avoir marqué. Il reste sur le terrain parce que, enfin, il force pour rester sur le terrain.
Ouais, je savais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais vu qu'il avait marqué, comme tu dis, c'était le deuxième match. Ouais. Donc le match de Coupe du Roi.
Exactement. Christophe, des trois points que Florent a évoqués, quel a été le plus important dans le bon début de match des Barcelonais, alors qu'il y avait des stats de tir assez folles à la mi-temps, je crois qu'ils ont une quinzaine de tirs à la mi-temps. Est-ce que c'est plutôt le pressing haut, est-ce que c'est la gestion de la profondeur, ou est-ce que finalement c'est ce qu'ils ont fait avec le ballon? Lequel des trois a été le plus prégnant, disons, sur les 30 premières minutes, puisque le but de Mbappé vient couper un temps fort en Barcelonais finalement?
Bah, le plus prégnant, si on considère que ce qui est important, c'est la longueur du temps fort, c'est cette capacité à presser et à vite récupérer le ballon, puisque en plus, ça se superpose à l'attitude des Parisiens à la récupération, c'est-à-dire que ton pressing à la perte, si Verratti, Paredes ou autres sortent toujours de la pression dès que la balle est récupérée, bah du coup, ça non seulement si tu veux tu récupères pas la balle, mais en plus tu peux encaisser une transition, donc c'est-à-dire que cette phase de jeu là conditionne deux trucs, alors que évidemment les balles en profondeur pour Dembélé par exemple sont importantes, mais c'est-à-dire que t'as pas assez fait, si Dembélé est pas assez rapide ou fait pas l'appel dans le bon tempo, il y a hors-jeu 6 mètres ou autre, mais l'action s'arrête, alors que là non seulement le fait de vite récupérer la balle quand elle est perdue permet d'allonger le temps fort, mais en plus elle te permet de pas subir. Donc c'est vraiment deux choses qui sont imbriquées, qui impliquent les deux équipes, c'est-à-dire que ça implique à la fois la volonté du Barça, alors je dis pressing à la perte parce que voilà, on va dire que la phase préparatoire, c'est le fait que Paris attende relativement bas, sauf sur vraiment le début de la seconde période, et que du coup le Barça ait tout le loisir d'installer sa possession dans le camp adverse, et du coup évidemment il y a eu des phases de pressing plus classiques, on va dire sur 6 mètres parisiens, etc. Mais quand tu parles de long temps fort où la balle ne sort pas du terrain, c'est vraiment ces actions là où tu arrives à une vingtaine de mètres du but, tu tentes ton avant-dernière ou ta dernière passe, et en fonction de ce qui se passe, soit l'action aboutit, soit tu essayes de vite récupérer le ballon. Et c'est ça qui est le plus étonnant dans l'approche parisienne, c'est que autant que le Barça fasse ça, on le sait, on s'en doutait vu ce qui était proposé les dernières semaines, que Verratti ne puisse pas sortir forcément de la pression, ça c'est un petit peu plus étonnant, mais ça peut arriver, mais surtout que tu t'obstines à essayer de le faire, alors que tu peux essayer de balancer un long ballon devant pour Mbappé, parce que du coup t'as des individualités qui sont en 1 contre 1 de l'autre côté, que Mbappé va vite, et que finalement si ton but c'est d'avoir une bonne transition, je pense que tes transitions elles étaient quasiment aussi bonnes si t'essayais de la dégager, alors un peu proprement quand même, hein, mais si t'essayais de la dégager ou que tu fasses dérouler, pour moi t'avais globalement à peu près la même situation qui allait s'en suivre, donc j'avoue que j'étais assez étonné de ça, et pour moi tout le temps fort se joue là-dessus. Et le fait que le Barça baisse le pied ensuite, c'est pas mal là-dedans, c'est-à-dire que la balle était perdue un tout petit peu plus loin du but adverse, tu mettais un petit peu plus de temps à la récupérer, donc du coup c'était la même chose, mais de plus en plus dilué, on va dire, au fil des minutes.
Il y a un point qui a été important dans ce match et dans ce début de match, Florence, a été la relation Mingueza-Mbappé, plutôt l'opposition entre les deux, et d'ailleurs, je vais essayer de pas le dire. Il y a une uchronie dans ce match, c'est si Mingueza continue, puisque sa sortie a quand même fait du mal. Alors Mbappé n'a pas bouleversé le match quand Firpo a remplacé Mingueza, mais il arrivait plutôt à bien gérer Mbappé, malgré son carton jaune, et c'est vrai que c'était une différence par rapport à l'aller où Dest avait été complètement exposé face aux Français.
Ouais, alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a réussi à bien le gérer quand il prend un jaune à la 30e et il est sorti dans la foulée?
Après le jaune c'est pas une situation où il est complètement dépassé par le joueur, hein. C'est plus un excès d'engagement si je me souviens bien.
C'est juste avant, l'excès d'engagement c'est juste après où il frôle un deuxième jaune en deux.
Et pour moi il doit prendre rouge comme il doit prendre rouge à l'aller.
Alors si on oublie toutes les fautes qu'il a faites, en tout cas dans la vitesse et dans le 1 contre 1, et notamment il a coupé Mbappé avant qu'il puisse se retourner, et ça c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément fait à l'aller sur les minutes qu'il a disputées.
Après moi ce qui m'a le plus gêné, c'est pas forcément, enfin en tout cas côté parisien, c'est pas forcément le duel Mbappé-Mingueza, c'est surtout que quand Paris a réussi à sortir et à lancer Mbappé, c'est le fait que derrière c'était du 2 contre 6 quasiment, c'était Mbappé-Icardi et les trois défenseurs du Barça versus plus deux ou trois milieux qui étaient déjà dans le repli défensif en train de revenir.
Je voulais te parler du manque créé par l'absence de Moïse Kean aussi sur cet aspect-là.
Oui, bah déjà pour ne serait-ce que pour sortir les ballons, c'était une autre solution à l'aller. Hein. Il était un petit peu passé, c'était un petit peu passé sous silence parce qu'il y avait eu la grosse presta de Mbappé de l'autre côté. Mais Kean avait été assez souvent sollicité pour que ce soit sur du jeu long d'ailleurs, parce que bah, physiquement par rapport à Jordi Alba, il pouvait jouer dos au but, il pouvait tenir le ballon. Mais c'est vrai que ça a joué aussi en effet pour accompagner les actions sur ce match retour. Mais ça, c'était un vrai problème, je pense. Et à côté de ça. Il y a aussi autre chose, c'est que bon, le Barça presse très bien, mais comme disait Christophe tout à l'heure, quand il y a un pressing, tu peux jouer long. Et face à Séville, lors de la double confrontation, le Barça était bien parce que sur les jeux longs, il y avait Piqué à la retombée, qui avait gagné pas mal de duels aériens, et à partir du moment où il gagnait le premier duel, derrière, les Catalans étaient sur le deuxième ballon, etc. Ce soir, Piqué n'était pas là. Le Barça n'avait pas de taille derrière, ou en tout cas pas de joueur réputé pour être un très bon joueur de tête, et j'arrive pas à comprendre que Paris n'ait pas cherché ce circuit-là, même si c'est pas la spécialité d'Icardi, ça aurait pu être une solution pour qu'il se rende utile, et là encore ce soir on l'a pas vu. J'ai l'impression moi qu'ils ont abordé ce match retour en se disant « bon ben on va faire comme à l'aller », c'est-à-dire que quand on va récupérer la balle, on va essayer de la garder, on va essayer de la garder vu qu'à l'aller ben, il nous avait laissé jouer au milieu et ben on va continuer comme ça. Et c'est plus ça en fait le problème, c'est que moi quand tu vois le Barça contre Séville, tu te dis ok, un PSG qui rejoue comme à l'aller, il va forcément souffrir. En revanche, un PSG qui mettrait plus l'accent sur les transitions, le jeu rapide, ce serait déjà un PSG plus à même d'ennuyer ce Barça-là qu'on a vu sur les dernières semaines. Maintenant, est-ce qu'il en est capable? Je ne sais pas.
Il y a à la source de ça, c'est peut-être aussi la pression qui a été mise sur Verratti, notamment sur Paredes, Christophe, qui est la grosse différence par rapport à l'aller pour les circuits de sortie de balle du PSG. Verratti et Paredes, on avait dit, avaient dominé le milieu barcelonais à l'aller sur pas mal de séquences. Et là, finalement, ça a été... alors pas l'inverse, parce que Busquets et Pedri n'ont pas dominé directement Verratti et Paredes, mais la pression du Barça a permis à Busquets et Pedri d'avoir du temps, là où Verratti et Paredes avaient eu du temps à l'aller.
Ouais, alors il y a plusieurs choses qui, bon je suis désolé, je sais pas si on va tourner en rond, mais on va souvent revenir sur les mêmes choses, qui est la hauteur de jeu, la résistance à la pression, des choses comme ça. La première, c'est concernant le fait que Paris se retrouvait dans cette situation-là, parce que là, c'était un choix de pas forcément se mettre, alors un, pas, comme le disait Florent, jouer long, soit pour construire les actions, soit pour rendre le ballon, parce que dans l'absolu, si tu veux faire monter ton bloc, c'est relativement simple. Tu balances la balle en touche dans le camp adverse et tu fais remonter tout le monde de 15 mètres, et tu mets un peu du pressing. Tu prends d'autres risques, mais je veux dire, installer un bloc médian dans l'absolu, si tu veux, tu peux le faire. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'il y a un joueur qui a la possibilité physique de balancer un ballon 50 ou 60 mètres plus loin. Ça, c'est faisable. Maintenant, à partir du moment où c'était pas le cas et où du coup, bah, les actions barcelonaises, au lieu de essayer de les arrêter plus ou moins au niveau du rond central, bah, t'essayais de les arrêter à 30 mètres. C'est sûr que tes récupérations, tu sollicitais toujours la résistance à la pression, ces petites passes. Quand t'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace, et là-dessus on en revient. Alors, je sais pas si, enfin, je vais m'autociter un peu, mais je suis pas ni le premier ni le dernier à dire ça. Mais le côté Paredes, qui a beaucoup de qualités des meneurs, en tout cas des milieux de terrain à l'ancienne, c'est-à-dire avec du temps, de l'espace face au jeu, il peut trouver vraiment des passes superbes. Alors, je dis pas que c'est Zidane ou autre, mais là-dessus, il partage quand même des points communs vraiment avec des meneurs de jeu, mais il a pas
du tout... T'as dit un truc positif sur Zidane, là, Christophe. Je sais pas si tu t'en rends compte.
Non, mais je fais exprès de dire des choses positives sur Zidane pour contrecarrer la mauvaise image et des gens qui déforment mes propos sur le fait que je disais que Nedved était meilleur que lui ou pas, alors que c'est pas ça que je dis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Paredes a toujours cette difficulté quand tu le prives de temps, quand tu le prives d'espace, et quand tu rajoutes Gueye, ou là aussi en fait quand tu te dis bah si tu balances la balle loin devant, dégagement du Barça, genre de De Jong qui ferait une tête ou de Langlais, un Gueye qui défend en avançant pourrait essayer d'aller choper le deuxième ballon, Gueye sollicité sous pression, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement il restait que Verratti a déjà réussi à se sortir de match où c'était un peu le seul milieu que tu pouvais trouver sous pression, et malgré tout il arrivait à éliminer un, deux mecs et à faire avancer le jeu, mais ça passe pas toujours. Et là le Barça a quand même mis de l'intensité et... enfin voilà, il y avait des vraies intentions, un vrai côté finalement assez radical hein, dans l'approche, où bah il faut absolument récupérer le ballon et puis on verra bien si on est passé ce qui se passe, mais dans tous les cas on joue ça. Et Verratti était à la fois la clé, mais en même temps c'est difficile de te reposer sur un seul mec pour ressortir sous pression, parce que les autres, rien contre eux, Kurzawa, Florenzi, les trois de devant jouent à moitié la corde, donc c'était beaucoup plus compliqué de les trouver au sol. Mais c'est-à-dire les autres circuits, en fait, c'était plus dangereux qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'était relativement facile pour le Barça de cibler le joueur qu'il fallait arrêter pour vraiment tuer les actions à la source, tant que Paris décidait de contrer, mais en ayant obligatoirement un relais par le milieu de terrain.
Florent, est-ce qu'on parle de ce que le Barça a fait avec ballon, parce que c'était un des thèmes de ton papier, et puis c'est quand même un des thèmes de la première période, puisque le Barça a eu 73% de possession en première période, alors ça c'est pas tellement rééquilibré en deuxième, le Barça a continué à avoir le ballon, mais la plupart des occasions du Barça sont en première, on le dit, une quinzaine de tirs sur leurs 21 tirs, deux belles occasions, un Dembélé très présent. Est-ce que c'est le joueur à ressortir de cette première période, parce que quelque part il symbolise la façon d'attaquer du Barça désormais?
Ouais, et puis une façon un peu différente d'auparavant, parce que ce qui avait posé problème au Barça offensivement à l'aller, c'était le manque de profondeur sur pas mal de situations. Quand Paris était sorti les chercher et qu'il y avait un joueur qui était pas cadré, qui pouvait s'avancer un petit peu dans le deuxième tiers du terrain, qui arrive au milieu, au lieu de demander dans le dos de la défense Griezmann ou Messi, parce que c'est dans leurs habitudes, préférait décrocher, et du coup il revenait dans la densité parisienne, et derrière il y avait pas d'action possible. Là, dès les premières minutes, tu sentais, même dès les premières secondes du match, que dès que un joueur côté barcelonais arrivait un petit peu au milieu de terrain sans être cadré, il y avait Dembélé qui était prêt à faire l'appel en profondeur, et il en a fait plusieurs où il part dans le dos de Florenzi, il réussit à échapper à Marquinhos plusieurs fois, c'est même Kimpembe qui quand même doit se retrouver à défendre axe droit. Et se retrouve à un contre un avec lui. Donc là, il a été très bon là-dessus. Et le Barça n'a surtout pas hésité à jouer sur lui, ce qu'il ne faisait pas forcément il y a quelques temps, auparavant, quand tu avais des appels et que... Enfin, soit les appels n'existaient pas, soit les balles n'arrivaient pas quand elles... Voilà, il n'y avait pas de rencontre entre les deux, donc ça, c'est intéressant. Ce sera peut-être encore plus intéressant quand ce sera Ansu Fati qui les fera à son retour. Sinon, sur des phases de jeu plus placées, ça a contribué à faire reculer le bloc parisien. Et ensuite, sur les phases plus placées, bon, après, c'était un Barça assez classique et une construction qu'on voit depuis quand même quelques temps. Ça date pas uniquement de ces dernières semaines où tu as un vrai carré créatif avec, aujourd'hui, c'était Busquets, Pedri, Griezmann et Messi. Et ensuite, un attaquant qui est censé offrir de la profondeur et offrir des appels dans les 20 derniers mètres. Là, ce soir, c'était Dembélé. Et des latéraux qui peuvent aussi s'ajouter pour apporter de la profondeur avec Alba et Dest. Et on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'au-delà des actions de Dembélé où tu ne peux qu'être frustré de sa finition, et tu risques, c'est ça qui est marrant avec lui, c'est qu'on était déjà frustré de son rendement quand il était ailier droit et qu'il ne jouait que sur sa percussion quasiment et sa capacité à simplement gagner ses rencontres en bout de chaîne. Là, il s'est retrouvé en bout de chaîne dans un rôle où il risque d'avoir encore plus d'occasions, et c'est malheureusement ce soir pour lui, c'était encore plus d'occasions de voir que dans le choix final, dans la finition, dans la technique de frappe, c'était pas toujours l'enroulé en lucarne comme celui qu'il avait pu mettre face au FC Séville.
Ouais, j'ai l'impression, quand il frappe, Christophe, qu'il sait pas ce qu'il... Enfin, peut-être qu'il sait ce qu'il veut faire, mais en tout cas, ça donne jamais ce qu'il voudrait faire. En tout cas, très rarement. Je te cite quelques situations. Il y a la première qu'il a où il repique intérieur sur sa prise de balle. Il arrive à crocheter de l'extérieur du pied. Et... Là, le choix logique pour tout le monde, c'est d'enrouler, et il frappe fort et ça décolle. Et je pense que c'est vraiment sa frappe la plus fréquente, celle où il frappe très très fort et qu'elle décolle sans jamais revenir redescendre vers le but. Il y a la deuxième où je crois que c'est Messi qui le décale un peu sur la gauche dans l'intérieur de la surface, et tu sens qu'il veut enrouler, peut-être en la levant côté opposé, et puis elle est écrasée au sol dans les bras du gardien. Il y a vraiment un écart immense entre ce qui semblerait être le choix logique et la réalisation technique. Et c'est toujours perturbant, on en a déjà parlé dans Vue du Banc, mais d'autant plus quand c'est un mec qui est aussi fort sur d'autres aspects relations avec le ballon.
Bah, c'est vrai que les auditeurs fidèles depuis de longues années auront peut-être une impression de déjà-vu, parce que c'est un running gag, je pense qu'on en a parlé dans peut-être une dizaine d'épisodes, le fait que sa technique de frappe soit perfectible. Et ce que dit Flo, c'est ce que je vous disais sur notre conversation pendant le match. À savoir que là, le fait d'enfin, parce que je trouve qu'il avait quand même d'énormes lacunes sur ça auparavant, d'enfin être capable d'être bon dans ses appels et pas simplement se mettre en marche quand il a le ballon dans les pieds, ça lui donne l'occasion d'avoir deux fois plus d'occasions et deux fois plus de possibilités de les gâcher. Et c'est malheureux, et il y a quand même suffisamment de fois, notamment sur le match contre Séville dont parlait Flo, où il va quand même faire le bon choix, réussir, pour que tu te dises, bon, c'est pas, entre guillemets, une cause désespérée, quoi, c'est pas Ibrahima Bakayoko qui courait super vite, mais technique de frappe, même s'il marquait des buts, c'était toujours 5% des tirs qui finissaient au fond. Là, il y a parfois où ça part vraiment bien, mais il y a aucune, régularité, et c'est assez, paradoxal, même si voilà, c'est pas, il y a d'autres choses comme ça qui se passent dans des effectifs de foot, mais de voir que c'est l'autre menace offensive, parce que Griezmann, c'est de plus en plus compliqué quand même au niveau footballistique à Barcelone en tout cas, de voir qu'en fait il partage l'attaque et la menace offensive avec Lionel Messi, qui est au contraire le joueur qui a rendu létale une frappe de balle ultra maîtrisée, qui est quand il repart, quand il repique sur son pied gauche en partant de la droite, il arrive à 18 mètres à l'entrée de la surface et met une espèce de petit plat du pied à moitié enroulé qui part dans le petit filet, et pourtant il est à quasiment 20 mètres. La balle, t'as l'impression qu'elle est pas spécialement puissante, quoi, c'est pas coup de pied, et au final c'est toujours le même tir, poteau rentrant ou petit filet, et ça rentre tout le temps, les gardiens le savent, et pourtant elle est super dure à aller chercher. Et Dembélé, oui, c'est le côté, je sais pas en fait à quel point, mais c'est faudrait, même toi qui es formateur, je sais pas si t'aurais une réponse là-dessus, à quel point l'ambidextrie peut le perturber, justement dans le fait de pas d'avoir une palette tellement large sur la capacité à utiliser ses deux pieds, à frapper les deux pieds, que du coup, bah, il a, je sais pas, 5, 6 sur 10, un peu sur tout, mais qui travaille pas une façon de prendre le ballon. Et là, en plus, bah, c'est quand même pas la même chose de partir d'un côté et de repiquer balle au pied et de courir et ensuite d'avoir juste une conduite de balle où t'as une touche et ensuite tu frappes. Chaque fois, c'est jamais la même vitesse de déclenchement. Quand tu démarres arrêté, comme Robin, c'est un peu des trucs que tu peux répéter façon catch and shoot de basket, quoi. Tu peux limite le faire à vide à l'entraînement, alors que des appels, des frappes en bout de course, c'est encore totalement différent. Mais c'est vrai que c'est embêtant pour le Barça sur ce match-là, parce que même si moi, la mi-temps, franchement, le penalty est raté, je considère que Paris est qualifié, je vois pas comment Barcelone peut revenir. Mais tu dis sincèrement, ce match-là, à la place de Dembélé, tu mets Ansu Fati, je pense qu'Ansu Fati met deux buts, très clairement. Et c'est là-dessus, c'est un peu embêtant d'avoir un mec qui... Enfin voilà, ça revient un petit peu à ce que j'écrivais, alors dans un contexte différent sur Copa Arena, mais sur le football Sagrada Familia, où au final... on voit très bien où tu veux en venir, voilà, t'as la belle construction, etc. Mais au final, c'est jamais fini. Bah, y a un petit peu ce côté-là avec Dembélé, quoi. C'est-à-dire que bah, tout ça pour ça, finalement, si t'as pas la dernière touche, le truc reste en chantier permanent.
Mais je pense qu'en fait, son problème technique sur les frappes n'est pas au niveau du pied, mais au niveau du reste du corps. Alors, je vais utiliser un mot qui est devenu fétiche, le mot dégingandé. D'ailleurs, appris à ma copine que c'était pas dégingandé comme je le pensais également. Elle était choquée, elle n'utilise plus du tout ce mot. Mais par exemple, la frappe où il frappe très fort et le ballon décolle, tu regardes l'équilibre de son corps, il n'y a pas d'équilibre en fait. Ça part dans tous les sens, il y a un bras qui part dans un sens, un bras dans l'autre. J'ai vraiment. Alors, il n'y a pas de technique modèle pour tous les joueurs, il y a des joueurs qui ont une gestuelle différente et ça fonctionne quand même. Et c'est beaucoup plus individuel qu'on pourrait le penser. Il n'y a pas une technique de frappe pour tout le monde.
Mais tu es en train de dire que personne n'a la sienne.
Mais personne, en tout cas, la sienne pour l'instant ne lui convient pas. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore trouvé, en tout cas à ce niveau-là de compétition, avec peu de temps pour s'adapter et pour prendre des décisions, pas encore trouvé cette technique de frappe. Parce qu'il a quand même. Alors je ne sais pas où il en est en termes de XG, par exemple, sur ce match. Je ne sais pas s'il y a des XG individuels qu'on peut trouver sur cette rencontre. Mais on doit être au moins à 1, je pense. Sur l'ensemble du match.
Ah, je sais pas quand même, ce qu'il est souvent sûr. Excentré.
Ouais, il est souvent excentré. Il a...
Peut-être à 0,6, 0,5.
Il a qu'une grosse occasion comptabilisée sur WhoScored. Il a 4 tirs, les deux sont excentrés, et puis il y a ce tir qui part dans les nuages là où. D'ailleurs, je sais même pas si la meilleure décision c'est pas de la donner sur la droite, parce que je sais plus à quelle hauteur sont Griezmann et Messi qui l'accompagnent sur ce truc. Je sais plus s'il est tout seul ou. Ou s'il peut-être la glisser à quelqu'un en meilleure position. Je ne me rappelle plus exactement de la situation.
Mais en tout cas, c'est un truc à bosser, parce que ça... Enfin, Christophe nous le disait sur la conversation, mais ça rappelait un peu déjà ce qui s'était passé contre Liverpool il y a un an de ça, deux ans de ça, pardon. Ou sur le 3-0 à l'aller, ça peut être un 4-0 s'il a une meilleure technique de frappe sur la toute fin de match.
Et ça fait quand même deux matchs où le Barça, alors dans des proportions différentes, hein, mais s'aborde un petit peu l'aller. Sur ce match-là, c'est de pas creuser, alors même si ça aurait été une forme de hold-up, parce que déjà le 3-0 était ultra bien payé, hein, mais tu dois faire 4-0 et tu foires l'action, mais au final, sur le coup, on tilte pas trop. Et là, sur l'aller Barcelone-PSG, alors je dis pas que c'est forcément facile à faire, hein, mais quand t'es mené 2-1, tu peux essayer de fermer, quand t'es mené 3-1 aussi. Et là, ça partait à l'abordage et t'as fait défiler le compteur de manière un petit peu inutile, ce qui a rendu la remontée beaucoup plus difficile à faire, parce que t'as essayé de chasser un but qui effectivement aurait fait baisser le déficit, mais je sais pas si c'était le meilleur choix. Dans tous les cas, la physionomie de l'aller conditionne le fait que t'aies vraiment besoin de jouer un truc extrême avec de la réussite totale sur le retour.
Mais alors, ce qui peut sembler contre-intuitif, c'est que en dehors de cette saison, Dembélé a toujours surperformé par rapport à ses expected goals. La saison, dernière saison où il joue beaucoup à Barcelone, donc 2018-2019, il est à 8 buts pour 4,2 XG. La dernière saison à Dortmund, il est à 6 buts pour 5 XG. Et sa saison à Rennes, incroyable, il est à 12 buts pour 7 XG. Alors c'est aussi parce qu'il met souvent des buts dans des positions compliquées.
Oui, c'est ça.
Je pense que notamment le but qu'il met contre Séville récemment, où pour le coup la technique de frappe est excellente. Mais elle est hyper aléatoire, c'est-à-dire que d'un match à l'autre et d'une situation à l'autre, elle n'est pas du tout... Enfin, elle ne se répète pas. C'est très curieux. Limite, ce serait une discussion hyper intéressante à avoir avec, bah, avec un concerné, avec un mec comme lui, et surtout sur comment les staffs bossent autour de ça. Parce qu'ils doivent s'en rendre compte à un moment, et lui aussi, j'imagine. Savoir qu'est-ce qui est proposé par les clubs pour améliorer ça, parce que la technique analytique, tu peux l'améliorer, mais bon, c'est pas la même chose que le faire en match avec pression, avec un mec qui vient t'emmerder et avec l'enjeu. Donc,
ça se trouve, c'est juste un truc de gainage au niveau des abdos ou autre, peut-être, ou vraiment ouais. De main ouais. Vers le bas. Hein. Parfois, c'est des choses aussi banales que ça. À noter juste pour les XG, parce qu'il a encore marqué juste avant. Sur le match de 19h, que Marcos Llorente est désormais à 9 buts avec 2,86 XG. Voilà, la surperformance absolue.
Qui va être ballon d'or entre lui et Angelino?
Bah là, ça va être lui, parce qu'Angelino a été sorti et n'a pas joué avec Leipzig.
Ah, très bien. On n'a pas d'autres candidats cette année, en 2021, là, pour le futur ballon d'or?
Sur des mecs qui sortiraient de nulle part et feraient des surperformances.
Oui, voilà, parce que c'est le ballon d'or vu du banc. Hein. Il faut préciser que c'est vraiment le ballon d'or du mec qui devrait pas être aussi bon, en fait. C'est-à-dire qu'à Haaland, ça marche pas. Parce qu'il est bâti pour ça, mais il faut trouver des mecs. Si, il y aurait peut-être des mecs de Francfort. Peut-être Philippe Kostic.
Ah, Philippe Kostic, ouais. Qui a fait encore 10 passes clés ce week-end. Ouais, ça peut être un candidat. En plus, on l'avait trashé pendant la Coupe du Monde, donc ça peut être une rédemption pour lui.
Depuis qu'on l'a trashé, vraiment, au jour J, il est excellent. Hein, je comprends pas du tout.
Et Francfort, je pense, va aller en Ligue des Champions. Hein. Je vois vraiment Francfort et Wolfsburg en Ligue des Champions et Leverkusen et Dortmund qui n'y seront pas.
Bon, oui. Avant que ce podcast devienne un spécial Bundesliga, reconcentrons-nous sur ce Bob PSG-Barça. Qu'est-ce qu'on peut avoir oublié, Florent, sur ce match? La deuxième période, mais finalement, le PSG a été un peu plus compact, un peu plus agressif, mais bon, il n'y a pas non plus une transformation folle. Et le Barça, j'ai l'impression que le Barça a été un peu comme nous. Il a cru un moment à la deuxième remontada, et puis avec le temps qui passe et les occasions qui rentrent pas, puis de moins en moins d'occasions créées.
Ouais, voilà, c'est ça.
Est-ce que, d'ailleurs, à quel moment t'as arrêté d'y croire, Flo, au scénario catastrophe pour le PSG?
J'ai arrêté d'y croire. Alors déjà, le penalty raté, forcément, mais en coup. Parce qu'à 2-1 à la pause, je pense que c'est très compliqué pour Pochettino de faire le discours qui, à mon avis, fait que le PSG rentre en deuxième mi-temps avec l'objectif d'aller chercher un peu plus haut son adversaire. Je pense que si le Barça met le deuxième, je suis pas sûr que Paris soit enclin à sortir comme ils l'ont fait en début de deuxième mi-temps. Et déjà cette entame-là m'a refroidi sur le fait que le Barça allait en mettre 3 et aller en prolongation. Donc ça, c'est le premier point. Et là où je n'y ai plus cru du tout, c'est quand Messi est dans les 6 mètres, n'arrive pas à se retourner et se fait contrer par un gros retour quand même de Marquinhos.
Ouais.
Voilà, là on était à la 63e. Je pense que là, si ça bascule à 2-1, ça devient
fou.
Enfin, ça peut devenir fou en effet. Mais à partir du moment où ça ne bascule pas à 2-1, je me dis que c'est bouclé. Mais c'est vrai que dans l'approche du match, je peux comprendre au départ le choix de Pochettino de pas forcément de pas forcément pousser Paris à être hyper proactif, aller chercher le Barça, etc. T'as 3 buts d'avance, t'en as surtout mis 4 à l'extérieur.
Bah oui, du coup tu peux le refaire comme il y a 4 ans.
Non, mais laisse-moi finir. Par rapport à ce Barça-là, tu peux te dire que attendre, réussir à défendre correctement avec tes deux lignes de 4 et avoir Mbappé qui joue la carotte, tu dis, bon, il se retrouve face à Minguesa, pourquoi pas. Le problème, et là on revient un petit peu en arrière, mais le problème de la première mi-temps, c'est l'incapacité de Paris à sortir de la pression. Et surtout le souhait de Paris de vouloir absolument conserver la balle sous cette pression-là, alors que, comme on le disait, tu mets un long ballon vers Minguesa ou t'écartes vers Mbappé Minguesa ou t'écartes vers ton latéral qui met long de ligne sur un attaquant qui prend l'espace, ça peut suffire. Hein. Ça peut suffire. Séville avait eu des situations comme ça.
Et t'as pas voulu presser haut non plus. T'aurais pu le faire pour aller les embêter, justement, éviter de...
Bah, t'aurais pu alterner pressing très haut et bloc bas, comme tu l'as fait. Ouais. C'est vrai, t'aurais pu avoir des séquences comme ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où t'étais bloc bas, t'arrivais pas non plus à ressortir pour aller dans les 30 mètres du Barça pour aller les presser. Donc c'était ça aussi l'autre problématique. Mais, voilà, sur cette approche du PSG sur le match retour, en fait, c'était un vrai test, je pense, pour Paris, pour essayer de voir si cette équipe était capable d'avoir d'autres visages que celui qu'elle a vu à l'aller. Qu'elle a montré, pardon, à l'aller, c'est-à-dire une équipe qui contrôle le milieu de terrain, qui est capable de pas trop mal exploiter la largeur comme il avait fait avec les montées des latéraux pour les deux premiers buts, qui était capable ensuite de contrôler le match, etc. Et là, on a vu quand même, enfin, le Barça, j'ai l'impression ce soir, a quand même posé quelques principes à développer face au PSG pour le mettre en difficulté. Ce PSG-là, en tout cas. Parce que c'est sûr que si tu ajoutes Neymar à l'équation, la sortie de pression, c'est un peu différente et un peu meilleure à Paris, évidemment. Donc, c'est pour ça que ce match reste inquiétant pour la suite en Ligue des Champions. Enfin, inquiétant. C'est un grand mot, mais ça te confirme le fait que Pochettino, s'il veut une équipe intense et qu'il soit capable de faire plusieurs choses, il a encore beaucoup de taf. Voilà.
Après, c'est cohérent avec ce que le PSG montre depuis plusieurs mois. Oui, ça pouvait, enfin, c'était pas possible que d'un coup il ait tout résolu sur ce match-là contre le Barça à l'aller en disant, ah bah ça y est, on a une identité, c'est ça qu'on va faire.
C'est ça.
Il était tombé sur une opposition qui avait proposé ce qui correspondait aussi.
Et ça va être intéressant de voir si justement ce match nul-là, il va réussir à en faire quelque chose pour que Paris réussisse à s'améliorer dans ces domaines-là, parce que quand tu es un adversaire de Paris, que tu vois le match de ce soir, tu te dis, bon, ben, ok. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas le Barça, mais sur l'intensité, sur le fait de presser constamment et de mettre en danger, d'empêcher Paris d'avoir cette possession du ballon, il y a d'autres équipes qui sont capables de faire ce qu'a fait le Barça en 2 semaines. Quoi.
Ouais. Il n'y en a pas 3000, mais il y en a quelques-unes.
Peut-être quelques-unes qui seront en quart de finale de Ligue des Champions, d'ailleurs.
Oui, et qui vont jouer la semaine prochaine, surtout. Quand je regarde le plateau, ce sera peut-être le Real, selon ce qu'ils choisissent de faire sur un match. City, pourquoi pas Chelsea, avec Tuchel maintenant. Et le Bayern aussi.
Puis Tuchel, en plus, avec sa défense à 3, il n'aurait pas changé grand-chose en termes de système.
Oui, puis Tuchel, il doit avoir une envie de défoncer le PSG qui doit être énorme. Hein. Je pense que s'il y a une vengeance Kill Bill sur la deuxième partie de saison, le Tuchel contre le PSG... Je pense que ça peut être assez fun. Ce serait marrant qu'il se fasse prêter Tanguy Kouassi en joker médical pour jouer contre le PSG. Il y aurait plein de personnages. Quelques mots sur des individualités, Christophe, même si c'est pas forcément ce qu'on fait le plus dans Vue du banc, mais bon, on peut parler de Navas, on peut parler de Messi qui fait un gros match mais qui foire son péno où il a... Enfin, c'est le Dembélé inversé, c'est-à-dire qu'il a une excellente technique de frappe, sauf sur cette situation-là.
Oui.
Qui t'a marqué sinon au Barça, il y a la connexion Messi-Alba comme souvent. De Jong qui a été bon. Puis en face, Navas, voilà, à peu près. J'ai l'impression que c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Navas,
c'est Marquinhos, Kimpembe qui se sont défendus.
Alors oui, c'est-à-dire que Marquinhos, Kimpembe se défendent bien, ça sauve des trucs, etc. Maintenant, pour moi, tu concèdes tellement d'occasions que t'es quand même obligé à un moment de les mettre dans l'équation. Et puis c'est tout con, on a vu Pep la veille, pour moi Pep a encore fait un match au niveau au-dessus de ces deux-là. Après oui, Navas, pas grand-chose à dire, je veux dire l'analyse d'un performance d'un gardien, on va pas faire une demi-heure là-dessus. Si je vois là sur les premiers push, etc., qui tombent, forcément les titres sont là-dessus. Parce que si je dis pas de bêtises, je pense que Navas n'a jamais été éliminé en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Je pense qu'il est toujours, allé au bout. Enfin, en finale ou gagné. Donc oui, Navas excellent, et c'est sûr que ça te favorise et ça te permet de te, je sais pas, de te complaire, mais en tout cas d'être plus à l'aise dans un bloc bas quand tu sais que t'as ce gardien-là pour te sauver. Gros problème sur Kurzawa en première période, mais il est remplacé par Diallo qui est quand même meilleur que lui. Florenzi, bon, je ouais. reste sur mon ce que j'ai pensé et ce que je pense toujours de ce joueur. J'avais dit ici même dès son arrivée, c'est-à-dire que défensivement, je le trouve beaucoup trop light. Et dans des matchs comme ça, où finalement, il n'a pas l'occasion de contre-attaquer beaucoup et de centrer, ça peut passer, hein, mais je ne suis pas sûr que dans une configuration de match comme ça, il soit bien meilleur que Kerrer, par exemple. Donc voilà, mais sinon, pas énormément de choses à dire sur les individualités qu'on n'ait pas déjà évoqué auparavant. J'avoue que Draxler, il a peut-être fait des choses, mais j'ai l'impression que je suis incapable de dire quoi que ce soit concernant Julian Draxler, c'est terrible. Mais non, juste pour conclure ça, plutôt que de parler des individualités, dire, pour rebondir ce que vous disiez juste avant, que finalement, je pense que beaucoup de gens, alors c'est pas pour faire la leçon ou autre, mais je pense que beaucoup de gens diront oui, mais il y a le match aller, et donc le match aller conditionne tout le retour, et il faut pas oublier l'aller. Et c'est vrai. Maintenant, quand tu prends tout l'échantillon du PSG en Ligue des Champions, l'anomalie, c'est pas ce match retour-là, c'est le match aller, en fait. Parce que la qualification pour les huitièmes de finale a déjà un petit côté miraculeux. Et Leipzig et d'autres avaient déjà bien mis en danger ce PSG-là, qui a quand même assez souvent montré un visage assez décevant. Et je suis pas sûr que le coach puisse changer tant de choses que ça et impulser tant de choses que ça. Alors, ça n'empêche que depuis, même dans la phase de poule, à partir du moment où le PSG a validé sa qualification, j'avais fait de Paris comme du Real l'un de mes favoris pour aller au bout, parce que pour moi, leur plafond est hyper haut. Mais ce visage-là du match retour est quand même relativement conforme à ce qu'on a vu sur les tours précédents. Donc je suis pas sûr que la part de gestion liée au score soit si grande que ça, en fait. Je pense sincèrement que même en gagnant l'aller que 2-1, si le Barça venait avec les mêmes intentions, je pense sincèrement que tu peux avoir le même match et la même croyance peut-être à la fois en Verratti sous pression et puis dans les transitions de Mbappé qui peut-être te... Voilà, entre Mbappé et Navas, peut-être que du coup ça te permet de penser le truc de manière un petit peu trop simplifiée, un petit peu trop, le gardien va sortir les trucs et Mbappé va prendre tout le monde en transition. Et du coup, peut-être que ça t'empêche d'avoir un plan un petit peu plus collectif qui serait peut-être plus pertinent sur certains matchs, en tout cas qui te permettrait de moins subir.
Voilà pour ce match. Je pense qu'on a fait le tour. On reparlera du PSG en Ligue des Champions lorsqu'on connaîtra le tirage au sort. Mais pour ça, il faut déjà la semaine prochaine. On passe à un autre match de cette semaine. C'est celui entre la Juve et Porto. Florent, on s'est bien amusé devant ce match, il faut le noter.
Oui.
Un match qui va en prolongation comme ça, qui était tout proche d'aller au tir au but. Mais l'ancien Nantais, Sergio Oliveira, qui déjà avait connu Conceição là-bas, est passé par là et a mis un joli coup franc. Je vais donner les compos. Côté de la Juve, Szczęsny dans les buts. Je sais pas comment le dire, donc je dis Szczęsny. Voilà, vous vous débrouillez. Vous prononcez bien dans votre tête. Alessandro, Bonucci, Demiral, Cuadrado. Cuadrado qui a un joli 10 sur Ouscore, dont on pourra en parler. Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey et Ronaldo Morata. Du côté de Porto, Marquezine dans les buts. Sanusi, Pep, Mbemba, Manafa, Otavio, Uribe, Oliveira, Corona au milieu et devant Marega et Taremi. Il y a beaucoup de noms qui ressemblent à des tirages de Scrabble ou de déchiffrer des lettres dans cette équipe de Porto. Voilà mon analyse. Non, Florent, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre où la Juve a été très très irrégulière, a été très très irrégulière, a beaucoup centré, et j'ai l'impression que c'est un choix en tout cas, un parti pris de pas mal d'équipes cette année qui, quand on est à court d'idées, on centre sur Ronaldo.
Ouais. Alors après, le truc, c'est que dans ce match-là, par rapport au match aller où il ne s'était absolument rien passé ou très très peu de choses sur le plan offensif côté turinois, là, il y a eu quand même des choses qui se sont vues dès les premières minutes de jeu. C'est qu'on a vu une Juve beaucoup plus capable et qui recherchait beaucoup plus le jeu direct C'est-à-dire soit on remonte la balle jusqu'au milieu et on va pas essayer de s'enferrer dans le cœur du jeu où Porto quadrille généralement plutôt bien avec son 4-4-2, on va mettre la balle sur les côtés, on va allonger parfois avec des appels en profondeur de Morata, de Chiesa, voire de Cuadrado sur les ailes, et sinon une fois qu'on est sur un côté on renverse de l'autre, on envoie des centres, et surtout dès qu'on est en position, on va dire on arrive couloir gauche ou couloir droit, à l'entrée de la surface de réparation, mais on met des centres en profondeur dans le dos de la défense de Porto. Et ça, ça a été le projet pendant la majeure partie de la rencontre. Et ça a permis notamment à un joueur comme Pep, Christophe en parlait tout à l'heure, de faire un match assez exceptionnel dans la coupure des trajectoires, puisqu'il il termine quand même le match avec 18 dégagements et beaucoup de têtes de spécifiques avec la tête en reculant vers son but. Qui est quand même toujours très difficile à faire pour un défenseur central.
Tu vois, Pep, il serait bien dans les études sur l'impact du jeu de tête sur les neurones. Parce que je pense que vraiment, il doit faire partie des défenseurs qui utilisent le plus des bons gros dégagements du crâne.
C'est vrai. Mais il devait avoir pas mal de neurones au début, parce qu'il en reste, je pense, pas mal, parce qu'il a quand même très très bien défendu encore hier. Il fait un match assez énorme à 38 ans, je crois, maintenant. Et voilà, donc il y avait ce premier projet de la Juve, et le problème de ce projet-là, côté turinois, c'est qu'à force de jouer long, soit vers l'avant, soit d'une aile à l'autre, soit vers la surface de réparation, forcément, quand tu utilises beaucoup le jeu long, ton bloc est très étiré, et ce qui fait que tu as beaucoup de difficultés pour presser à la perte et être présent et vraiment étouffer ton adversaire. Ce qui fait que sur la première mi-temps, Porto a quand même pu ressortir le ballon très souvent. Puis des sorties de balles très simples, c'était généralement un premier joueur qui récupérait la balle, qui cherchait un jeu mi-long, généralement soit vers Marega, soit vers Taremi, qui jouait en appui vers un autre qui s'était projeté entre-temps. Et ensuite, tu avais aussi les latéraux qui participent offensivement, notamment Zeidou côté gauche qui est beaucoup monté. Et du coup, en fait, on avait une Juve qui avait un plan assez clair offensivement et capable de mettre Porto en difficulté sur le plan défensif, mais qui était, d'un autre côté, assez incapable d'étouffer Porto et de les maintenir dans leur camp. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi Porto passe devant au score, parce qu'avant le péno d'Oliveira, ils ont des situations aussi dans la surface. Et après, évidemment, en deuxième mi-temps, quand Porto perd Taremi, forcément, ils perdent un point d'appui devant, ça devient très compliqué pour eux, et là, ils se retrouvent à défendre tous ensemble. Donc c'était forcément plus à sens unique, et là, la Juve a poussé, et ça n'a finalement pas suffi pour eux.
Taremi qui a été expulsé pour 2 cartons jaunes en 2 minutes. Oui. En début de deuxième période. Christophe, est-ce que tu es capable de me donner le nombre de centres tentés par la Juve sur ce match à 3 près?
C'est 120 minutes, 40.
J'ai la réponse.
T'es pas loin, Christophe, puisque Flo, c'est combien?
62. Ah. Parce que ça compte les coups de pied arrêtés, en fait.
Ah ouais, je pensais donc, 100 coups de pied arrêtés.
Donc avec t'es pas mal.
Ouais, je sais pas combien ça fait sans les coups de pied arrêtés, mais une quarantaine, je pense. Donc t'es pas mal, Christophe.
Bah, j'avais en tête Séville qui en fait 38 dans le jeu, je crois. Donc,
parce qu'il y a quand même il y a 19 corners de la Juve, donc oui, tu fais 62 moins 19, et je pense que tu. Alors, ils ont peut-être pas fait des centres sur tous les corners, ils ont dû en jouer certains à deux, mais. Et encore, je suis pas sûr. Et le nombre de ballons touchés, pourquoi pas. Le nombre de passes, pardon, tentées par les joueurs de la Juve, donc tout le monde est. Et plutôt bien, parce que le match a duré longtemps. Et Cuadrado est à 133 passes tentées, sachant que le deuxième, c'est Arthur avec 109.
Oui, et en termes de centre, Cuadrado, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Je ne saurais même pas tous les compter, parce que là, il y en a 6, 3, 6, 9, 13, 16. Bon, il n'en a pas fait la moitié, mais il a dû faire un bon tiers de tous les centres de la Juve sur l'ensemble du match, auquel il faut ajouter aussi 11 de dribbles tentés. Bon, seulement 3 ou 4 réussis, je crois. 5, pardon. Mais ouais, Cuadrado, en fait, il a le 10 sur 10 sur Vuscord, mais c'est plus un 10 sur 10 au volume qu'un 10 sur 10 sur la qualité de ce qu'il a pu faire sur le terrain, même s'il met une passe D pour Chiesa à l'heure de jeu. Ouais. D'ailleurs, un Chiesa qui a été d'assez loin le meilleur turinois hier soir.
Chiesa et son gros pif qui rappelle le mien. Cuadrado qui a centré beaucoup de la même zone. Tu en parlais, Florent, la zone qu'on pourrait appeler la zone Alexander-Arnold. Parce que c'est à peu près celle-ci où.
C'est celle où, part, tu, sauf... celle où tu enroules pour arriver dans la zone, dans le dos de la défense qui recule vers son but. Ouais.
Souvent deuxième poteau pour un Cristiano qui aime bien arriver caché dans le dos du deuxième central. Bon, c'est dommage qu'il y a eu Cuadrado n'a tenté aucun centre depuis l'intérieur de la surface.
C'était vraiment quelque chose. On arrivait dans ces zones-là, on cherchait forcément le centre ou la balle dans le dos de la défense. Et d'ailleurs, Porto a quand même, dans le début de match, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, donc j'ai mentionné le fait qu'ils arrivaient à sortir, mais Porto a aussi assez rapidement évolué et s'est adapté. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un 4-4-2 à quasiment un 6-4-0, de manière à mieux contrôler cette largeur justement et à pouvoir avoir des joueurs capables de sortir et de ne pas laisser le gars ajuster son centre depuis ces zones-là. Donc c'était une adaptation dans l'urgence, mais plutôt bien faite. Et pour le coup, quand c'est ça, enfin, il sort de ce match, il peut quand même sortir de ce match assez fier parce que en termes de qualité d'effectif, bon, voilà, Porto, ça reste sans doute l'équipe la une des plus faibles sur le plateau restant. Mais il sort quand même du match en ayant dominé la Juve 3 mi-temps sur 4, je pense. Et ça, ça reste une perf, même si on sait que la Juve est très décevante cette saison.
Et il faut noter que Pep est quand même souvent dans ces équipes qui arrivent à tenir des plans très défensifs longtemps, parce que c'était le Portugal. Cas du Real de Mourinho sur certains matchs, du Portugal en 2016. Et donc là, de ce Porto-là qui fait quart de finale. Je pense que dans ce plan-là, si tu avais une défense Pep Godin, par exemple, tous les deux à leur apogée, ça pourrait donner un sacré truc.
Et Mbemba était pas mal à côté hein, aussi. Hein. Il a fait le taf aussi. Mais je retiens surtout le latéral gauche nigérian, là, Zeidou, qui a été très bon.
C'est celui que j'ai appelé Sanoussi. Hein,
oui, c'est ça.
Parce que c'était rien à voir avec Zeidou Youssouf.
Non.
Qui nous manque. Florent, pas du tout. Christophe, tu penses quand même que la Juve aurait dû passer au vu des occasions créées. Alors c'est vrai que ça a très bien tourné pour Porto. La Juve tire 31 fois sur ce match retour, notamment 5 tirs de Ronaldo, 4 de Chiesa, 5 de Rabiot aussi, qui aura terminé le match d'un tir complètement déglingué. Il était, je pense, au bout de son énergie, il était au bout du rouleau. Mais malgré tout, c'est un match où Porto est très heureux, disons, s'il faut résumer.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Flo a quand même bien décrit l'aspect tactique, pas forcément besoin de revenir énormément là-dessus. En fait, c'est un match où j'ai pas grand-chose à reprocher à Porto, parce que je pense qu'ils ont globalement tous fait avec leurs moyens, et que sur des trucs qui sont, on va dire, plus de l'aspect de l'envie de jouer, etc., typiquement à la fin de match, où le but de Rabiot pour te remettre la Juve, un but de la qualif, tombe une minute et quelques après le coup franc, et sur les 3-4 restantes, ça essaye quand même de ressortir proprement, de pas dégager, donc il y avait des vraies intentions, et pareil, il y avait aussi des intentions sur le début de match. Maintenant, il y a un moment où à la fois le différentiel de qualité, hein, parce que quand même la plupart des joueurs de Porto, je pense qu'individuellement, à part Pep, c'est quasiment, t'en as pas un qui aurait sa place dans l'équipe d'en face, je pense. En tout cas sur le papier, parce que des Oliveira, etc. font des bonnes perfs, hein, mais sur le niveau dans l'absolu. Et deuxièmement, tu fais plus de la moitié du match en infériorité numérique, donc en plus, il y a ça. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas grand-chose à reprocher à Porto, mais la Juve, même en étant, je trouve, très basique, très moyenne, Flo a évoqué le plan de départ qui, du coup, leur a fait quand même concéder des transitions qui, pour moi, étaient un peu inutiles. Je pense que tu pouvais arriver dans des positions de centre, etc., sans forcément avoir besoin d'allonger, etc., et te rendre vulnérable sur les ballons perdus. Malgré tout ça, si t'as Morata, qui a ne serait-ce que 20% de son niveau sur le match face à Lazio du week-end, où je vais pas dire qu'il gagne le match à lui tout seul, mais pas loin, en tout cas c'est lui qui concrétise toutes les phases de domination, la Juve met 3-4 buts assez facilement dans le temps réglementaire et s'est plié longtemps avant. Donc c'est vrai que cette Juve-là, dans tous les cas, même si elle était passée, il y aurait eu pas mal de reproches, de sentiments d'inachevé, parce que le plan de multiplier les centres face à un tel adversaire, même si ça défendait en ligne de 5, en ligne de 6, il est quand même un petit peu basique, mais malgré tout, il y a plein d'équipes qui ont réussi à se qualifier en ayant absolument le même plan de jeu, et juste en faisant respecter une forme de domination physique dans les airs, et domination technique pour récupérer assez vite le ballon et étouffer l'adversaire. Et la Juve peut à la fois s'en prendre à la malchance, et puis parce qu'il y a des barres transversales, il y a des arrêts, des choses comme ça, des hors-jeux, mais simplement s'en prendre à ses individualités, parce que justement sur des matchs comme ça, c'est un Morata, c'est un Ronaldo qui doivent faire basculer, et qui doivent, en gros, si ton plan de jeu est pas parfait, si ton collectif est pas incroyable, ce qui est le cas de la Juve depuis quelques semaines, Tu dois avoir ces individualités qui est là, qui compensent, et il n'y a pas eu ça, et c'est là-dessus que le match se perd. C'est-à-dire contre un adversaire meilleur que Porto, même avec des tops individualités, ça serait peut-être pas passé. Mais là, une Juve avec un... Ouais, voilà, Cuadrado, pour moi, il est plus ou moins au max. Chiesa, pas loin du max aussi, mais la plupart des autres, il y a quand même quelques problèmes entre le niveau maximum qui peut être atteint et ce qu'ils ont fait sur ce 8e retour.
Est-ce que, question pour vous deux, est-ce que le trade Pjanic-Arthur est le trade le plus nul de l'histoire du foot? Il y en a un qui joue pas au Barça et qui de toute façon fait doublon de plein de joueurs au Barça et qui, je sais pas à quel moment de sa carrière au Barça il va pouvoir s'installer. Et Arthur qui est un peu seul dans sa manière de jouer à la Juve, dans une équipe où sinon il y a principalement des coureurs.
Christophe,
qui est beaucoup plus neutre.
Donc, est-ce que, au-delà de la réponse qui, de toute façon, à cette question qui, de toute façon, n'est que financière, est-ce que tu as envie de donner au public, de vue du banc, aux auditeurs, ta théorie de la fusion qui a permis la création d'Arthur, en fait, qui est la fusion de deux joueurs?
J'avais oublié ça dans le que j'avais donné sur le moment. Fusion entre Alou Diarra, deuxième partie de carrière, et Xavi. C'est-à-dire qu'il y a les spin moves de Xavi, où à chaque fois il arrive à tourner sur lui-même, et c'est d'ailleurs la première chose que les gens ont vu quand il arrive à Barcelone, et c'est vrai que c'est un truc qui est fait par Xavi. Voilà, tu peux te remettre face à ton but, et en fait tu échappes à la pression en allant un temps vers ton but, et ensuite en repartant dans l'autre sens. Mais le souci, c'est qu'il y a... Alors, je dis Alou Diarra, deuxième partie de carrière, parce que dans tout simplement Ligue 1, Raphaël a dit que Alou Diarra, de Bordeaux notamment, savait faire de vraies choses. Oui. Mais là, en fait, il sort de la pression pour ensuite faire une passe latérale. Et du coup, tu te dis, mais à quoi ça sert d'avoir gagné de l'espace si c'est pour faire une passe qu'en fait, si t'avais pas fait ton tour sur toi-même, t'aurais eu exactement la même situation. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont énervé avec une ou deux situations. Genre, j'ai l'impression que la seule fois où il a cassé une ligne, il a fait une passe pour Cristiano Ronaldo qui lui a remis... du coup, en fait, la ligne a été reconstituée dans l'autre sens parce que du coup, on est reparti au point de départ. Mais c'est vrai qu'Arthur m'énerve beaucoup parce que tu sens qu'il a quand même un truc vraiment techniquement sur les prises de balles, les touches, même des fois l'envie de faire vivre le jeu, etc. Mais il y a un moment, tu peux pas juste faire vivre le jeu. En fait, il faut quand même provoquer des décalages, faut faire quelque chose. En fait, tu peux pas faire tous tes matchs à 95% de passes réussies et 14 mètres gagnés, quoi. Et en plus, il a même pas, tu vois, un mec comme Touzard faisait tout le temps ça, des passes très très neutres. Mais au final, il pouvait avoir le côté un peu projection où tu te dis, si tu le mets un peu dans un rôle à la Matuidi ou autre, il peut t'apporter des trucs. Là, Arthur, lui, n'a pas ce côté sans ballon, projection. Donc c'est vrai que pour assurer la domination d'une équipe qui aurait plein de mecs décisifs autour, si t'avais que des Pedri, des De Jong autour, pourquoi pas. Mais là, avec Rabiot et Ramsey, non. C'est un très bon joueur, hein, mais c'est problématique. C'est pas ça dont la Juve a besoin, en fait.
Arthur qui termine à 96% de passes réussies hier soir.
J'avais pas
Sur 108 passes tentées. Donc, il n'a raté que 4 passes sur l'ensemble du match.
Ouais. Genre de pourcentage qui peut être aussi négatif que positif. Hein. Ça dépend comment tu... Quand tu creuses, ça peut être l'un des deux, en fait.
Bah, surtout pour un joueur qui est à la Juventus et qui a coûté quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi aussi, ouais, j'ai beaucoup de mal avec Arthur.
Comme tu disais, Flo, t'enlèves l'aspect financier, équilibrer les comptes. Combien aurait-il vraiment coûté, tu vois,
c'est... Oui.
Oui, parce que c'est vrai que Marley Hacker a dû te coûter 7 millions, je crois. Donc.
Lui, il y peut rien, tu vois. Il est là, il débarque, on lui dit, ouais, on t'a payé 70, donc faut que tu sois bon. Le mec, il fait, ouais, d'accord, mais bon, j'y peux rien. Si vous délirez pour vos trucs de comptable, je sais que j'en vaux pas 70, tu vois. Enfin, bon, c'est le foot magnifique.
Non, mais disons que c'est. J'ai presque. Enfin, plus tu. C'est un de ces joueurs où son transfert a quasiment fait sa réputation. Parce qu'après, sur le terrain, c'est compliqué de voir, comme le disait Christophe. Où se situe sa vraie valeur, quoi.
Ouais, bon, le joueur dont on peut dire du bien, c'est Chiesa, Florent, sur ce match. Notamment parce que on en parlait il y a pas longtemps avec Romain Amouma dans un entretien sur Coparena où on disait qu'il y avait de moins en moins de joueurs et d'attaquants notamment de côté qui attaquaient la profondeur parce que beaucoup aimaient recevoir dans les pieds pour provoquer. C'est ce qu'on disait avec Dembélé d'ailleurs, qui fait beaucoup mieux et beaucoup plus de variété maintenant qu'il est dans l'axe.
Ouais.
Mais par contre, Chiesa, lui, dans la profondeur, ses appels sont toujours très bien timés, toujours vers le but. toujours en diagonale vers le but. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui va vite au-delà de ça? Parce que c'est quand même plus facile de faire des très bons appels quand tu vas plus vite que l'adversaire.
Ouais, des très très bons appels. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est, j'ai l'impression, en fait, à chaque fois qu'il y a un gros match de la Juve, j'ai l'impression que c'est lui qui est décisif. Alors, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui tire la Juve vers le haut dans, ses, dans les grands rendez-vous. Et en fait, en allant voir, il y a pas à l'instant, justement, les matchs où il avait marqué. Et je vois but contre l'Inter au mois de septembre. Bon, il y a eu une défaite à la fin. But contre l'Atalanta pour un match nul, un partout. Doublé contre le Milan AC pour une victoire 3-1. Et alors, non, il n'a pas marqué contre la Lazio, mais donc là, face à la... face à Porto, il marque. Et il avait aussi marqué au match aller, déjà. Il avait permis à la Juve de sortir avec un seul but à remonter. Il avait marqué aussi un but lors de la phase de poule face à Kiev, mais là, c'était autre chose. Donc, au-delà de ses qualités que tu as évoquées, en effet, sa capacité à prendre la profondeur, il n'est pas loin de mettre un autre but. Je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après son deuxième but où il fait un appel en profondeur. Il devance la sortie du gardien et il y a Pep qui vient sauver l'action en coupant sa trajectoire. Et la balle termine sur le poteau et fait poteau sortant.
Ouais. Il vient sauver le rebond, parce que je pense que sinon, tu peux avoir la même chose où ça tape le poteau, mais Chiesa la remet derrière dans le but.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Mais c'est vrai que j'avais l'impression sur ce match que c'était parmi tous les joueurs de la Juve, le seul qui était digne d'un tel rendez-vous, c'est-à-dire un rendez-vous où il faut... pas se rater, faut être présent le jour J, faut être proactif, faut proposer des choses, etc. Et j'ai l'impression que c'était le seul joueur de ce niveau-là et digne d'une remontée, en fait. Voilà. Et c'est ce qui reste un peu gênant quand tu vois les autres joueurs qui étaient avec lui, qui étaient autour de lui.
Oui. Bah après, le problème, c'est qu'à la Juve, il y a quand même beaucoup de joueurs qui... Alors, Chiesa le fait très bien, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui courent. Christophe, on peut parler de Ramsey qui aime bien courir, on peut parler de McKennie, de Kulusevski, de Bernardeschi qui fait principalement ça depuis quelques temps. Il y a Arthur qui est un peu paumé au milieu de tout ça et qui est pas non plus le mec qui va suffire pour organiser tout le jeu. J'ai l'impression que je comprends pas bien. Je pense que la Juve serait très très bon si le foot était un test de VMA ou de course sur 30-40 mètres en profondeur, mais que bon, ça suffit pas. Toute la partie créative et organisationnelle, ils l'ont perdu au fil des années en remplaçant des joueurs par des profils complètement différents.
Bah, c'est pour ça que pour moi le travail de Pirlo en début de saison était assez intéressant, pas forcément intéressant vraiment, ça suscitait un intérêt chez moi, j'étais curieux de voir ce qui se passait, c'était pas toujours bien, mais au moins tu voyais que finalement il avait intégré cette variable là. Presque trop d'ailleurs, puisque quand Dybala était apte, il le faisait pas jouer. Mais finalement, lui souhaitait apporter une forme de créativité, en tout cas de déséquilibre, de création d'espace par le système, d'où le fait de passer à 3 en phase défensive, enfin en phase avec ballon et repasser à 4 derrière, etc. pour avoir plus de monde devant le ballon à la relance. Enfin, des trucs qui sont assez classiques, mais qui sont pas forcément dans l'ADN Juve. Hein. L'ADN Juve, c'est pas un stéréotype de dire que c'est plutôt des milieux avec Conte, Deschamps, Taquinardi, historiquement, que des milieux avec beaucoup de création, ouais, et des systèmes ultra fluides.
Il y avait toujours un Fiori classé quand même au milieu de ça.
Oui, c'est ça, mais voilà, mais c'était t'avais ta base défensive et t'avais Zidane ou Del Piero ou Nedved, plus voilà, un bon numéro 9, mais globalement, je veux dire, même l'équipe qu'on avait vue dans la saga de Nantes sur Copa Arena, qui gagne la Ligue des Champions, il y a quand même pas mal de profils assez défensifs qui savent faire d'autres choses, mais ça reste des associations où t'es sûr d'avoir quand même une base derrière assez costaud. Et là, le fait d'avoir un jeu plus moderne était intéressant. Je suis pas sûr que la manière... Alors, soit l'effectif n'était pas adapté, soit parfois c'est l'institution, le club, hein, ça passe moins bien à certains endroits que d'autres. Hein. Typiquement, si tu faisais ça à l'Atlético, je suis pas sûr que ça se passerait aussi bien, même avec le même coach et les mêmes idées que des endroits où ça fonctionne. Peut-être que Pirlo, première expérience d'entraîneur, il était nommé pour être le coach des U23. Une semaine après, il se retrouve coach de l'équipe première. Je pense sincèrement que c'est loin d'être un aussi bon coach que Mauricio Sarri, donc peut-être tout simplement qu'il a les idées mais qu'il n'est pas capable de les transmettre, mais toujours est-il que voilà, il y avait vraiment un truc dès le départ qui est, on met beaucoup de coureurs, on va vouloir presser, parce que mine de rien, si t'as, c'est Enfin, si t'as des mecs que créatifs mais qui savent pas courir, bah, tu pourras plus difficilement presser, etc. D'où Kulusevski ou autres qui ont des grosses VMA. Le problème, c'est qu'au final, ton système t'a jamais apporté les réponses que tu souhaitais avoir sur des enchaînements, des redoublements, etc. Et donc là, on est... Vu que ça marchait pas, hein, on va le dire, ça, c'était pas suffisant par rapport au niveau de la Juve, bah, il est retombé sur un système beaucoup plus rigide. Et puisque finalement il n'a pas intégré beaucoup plus d'éléments créatifs, parce qu'en plus il n'en a pas énormément à sa disposition, bah là c'est des centres, c'est des choses beaucoup plus basiques. Donc finalement il a tenté un truc, ça fonctionne pas, donc il revient au point de départ, sauf que revenir au point de départ, ça marche mieux si t'avais c'est Zidane, c'est Nedved, c'est Del Piero, pour faire des différences. Même, je citais tout à l'heure l'épopée, hein, mais Paulo Sousa, t'as pas de Paulo Sousa d'époque maintenant, hein, t'as plus des Jugovic, quoi. C'est beaucoup plus des mecs qui font des allers-retours. Par exemple, un Rabiot, moi je reste assez sceptique sur la créativité que peut avoir ce mec-là, par exemple. Il est intéressant quand il va se projeter balle au pied. Maintenant, à un moment, quand t'es face à un bloc bas, c'est mieux d'avoir autre chose. Comme je disais, hein, ça aurait pu suffire pour passer. Mais c'est vrai que le manque de Dybala est quand même assez visible sur l'inventivité, la capacité à être disponible entre les lignes, etc.
Bon, je pense qu'on en a assez dit pour ce match. Je vais pas parler des individualités de Porto. Bon, collectivement, c'est le caca 2 de Conchinchao. Ça a défendu bas, compact. Ça a su marquer sur les quelques occasions qu'ils ont eues.
Qu'est-ce que tu penses de Marega, Raphaël?
Franchement, je le vois pas assez jouer pour penser quelque chose de Marega. Je sais pas, mais je sais pas. T'as un avis, Christophe, sur Marega?
C'est un joueur assez clivant pour son physique, et Florent l'avait comparé à Alexandre Mendy.
Oui, non, mais la version réussie, évidemment.
Ouais, bon, après, on était aussi clivant à un moment sur Lukaku, et le mec a tellement progressé techniquement que, tu vois, il faudrait que je vois Marega dans d'autres configurations, tu vois, en championnat, ils doivent dominer, et je sais pas à quoi ça ressemble quand Porto a le ballon, par exemple.
Mais moi, j'aime bien.
J'aime bien aussi, en plus, hein.
Je pense que c'est la limite. Mais en fait, c'est pour moi un joueur intéressant, tu vois, je disais tout à l'heure, je suis intéressé par le système, c'est bien ou c'est mal, mais au moins, voilà, t'as envie de voir. Tu vois, Uribe, Otavio, ça m'intéresse pas particulièrement. Corona un petit peu plus, même si tu vois vite un peu le profil créatif, mais voilà, créatif, pas niveau demi-finale Ligue des Champions, quoi.
Corona, c'est un Derlis Gonzalez. C'est le mec qui est talentueux, mais tu te dis, bon, bah, s'il a jamais bougé et qu'on parle jamais de lui, c'est qu'il doit y avoir un truc, une raison, mais j'ai pas le temps de regarder ses matchs.
Ouais, c'est ça, c'est un sous d'Alessandro, quoi. Enfin, d'Alessandro, la carrière qu'a fait d'Alessandro, mais avec moins de talent au départ, quoi. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien Corona, mais bon, à ce niveau-là, il fait moins de différence que d'autres mecs que t'imagines peut-être un peu moins talentueux, mais qui au final ont une panoplie beaucoup plus étendue.
Vrai...
Mais ça pour dire que non, Marega est l'un des joueurs qui m'intéresse, parce qu'en fait, il est tellement singulier, finalement, dans son physique et dans certaines qualités, que je me dis qu'il y a peut-être un truc à gratter derrière. Alors à mon avis, c'est un peu son niveau maximum, mais c'est un joueur que j'ai envie de suivre plus que certains autres, tu vois. Le Manafa, je sais pas quoi dire sur lui, en fait. Si je peux dire des choses sur les sourcils de Diaz qui est rentré, qui était ton running gag pendant le match.
Mais... oui, parce qu'il a des il a les sourcils de Jafar dans j'arrive.
Non, Aladdin.
Merde, aidez-moi,
non,
j'ai un trou.
Aladdin.
Non, Aladdin, merci. Non, mais après, sur Marega, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un mec qui a un parcours particulier. Il me semble qu'il perce vraiment assez tard au vraiment plus haut niveau. Je crois qu'à 22-23 ans, il est encore à des niveaux quasi amateurs.
Ouais,
c'est le genre de parcours qui donne souvent des joueurs intéressants et des mecs intéressants, en plus.
Par rapport à ses qualités, moi, je serais... Alors, je pense qu'il est très bien à Porto, etc. Mais c'est un joueur... Alors, il a 29 ans, je crois,
oui,
il me semble.
Ouais.
C'est un joueur qui... Je serais assez intéressé de le voir débarquer en Ligue 1 à un moment donné. Si, je pense qu'avec ses qualités, il serait capable d'assez vite briller aussi en Ligue 1, et ça bouclerait un peu le truc, vu qu'il n'y a jamais joué, finalement, puisqu'il a fait national et après il est parti au Maritimo en D1 portugaise avant de signer à Porto.
Oui, ouais, non, mais un mec qui avait fait une saison à 6 buts et 3 passes D en Ligue des Champions en 9 matchs, je pense que oui, en Ligue 1, il pourrait s'éclater.
Ouais, typiquement, si tu avais pu le prendre à la place de Benedetto, par exemple, je pense que ça aurait été mieux pour Marseille. Sans vouloir mettre une balle perdue à Benedetto, hein, mais je pense que ce genre de club peut être intéressant pour lui, peut-être l'année prochaine, à 30 piges, si jamais il estime avoir fait le tour de la question au Portugal, quoi.
Bon après, est-ce que tu préfères être à Porto à jouer la Ligue des Champions tous les ans et le titre tous les ans quasiment, ou plutôt venir à Marseille
Oui, non, non, mais
Justement,
je. Après, on a
justement,
vu
il a
des
joué.
choses plus improbables, mais oui, je suis assez d'accord avec toi.
Après, ils la joueront peut-être pas l'année prochaine, Porto, je crois,
Mais
la
Marseille non
Champions.
plus. Donc,
Oui, non, mais il y a d'autres clubs après. Enfin, on
beaucoup de
verra
balles
ça.
perdues pour Marseille,
On
hein, ce
verra
soir.
ça.
Passons à Dortmund-Séville, le troisième match et dernier match qu'on va évoquer, puisqu'on n'a pas vu Liverpool-Leipzig, mais bon, un clean sheet avec Kabak et Nathaniel Phillips derrière, ça peut se regarder. Rien que pour la curiosité scientifique. Match nul de partout entre Dortmund et Séville, avec un doublé de Haaland, évidemment, 35e, 54e, dont un but sur penalty après une séquence complètement folle qu'on va, je pense, évoquer. Une des pires séquences de l'arbitrage vidéo ces derniers mois, même s'il y a eu, y en a eu beaucoup. Et Nissiri qui aurait pu, à quelques occasions près, peut-être faire partie d'un exploit pour Séville, puisque ça revient à 2-2 en toute fin de match. Et Séville a eu pas mal d'occasions en deuxième période. Christophe, tu es le seul qui a vu cette rencontre attentivement. Moi, je l'ai vu un petit peu. Tu voues une haine féroce au coach de Dortmund. Il faut le dire. Explique-nous. Comment Dortmund a pu passer? Est-ce que ça se résume à un gars qui est très bon, même si il y en a évidemment d'autres qui sont intéressants et peut-être qu'on parlera un peu de Marco Reus.
Oui, alors haine féroce, c'est pour dire qu'en gros, je trouve que Dortmund joue beaucoup moins bien depuis que Terzic est arrivé à la tête du club par rapport à Favre et que les résultats sont pas bien meilleurs.
Et en plus, t'as toujours l'impression qu'il sort d'After, en fait. Et c'est très, il est toujours détente quand il arrive en conférence de presse. Il est limite trop détendu.
Mais oui, et c'est le pire, c'est que tu dis ça et que j'étais en train de me faire la réflexion parce que du coup, j'ai mis la feuille de match Soccerway sur l'écran de l'ordinateur pour avoir bien le truc en tête. Et il y a des petites vidéos incrustées et du coup, j'ai sa tête alors qu'il est figé. Et effectivement, on dirait un sidekick de Solomon à Ibiza. Donc c'est vrai que c'est assez amusant. Non, mais bon, j'étais tout seul à voir ce match, je l'ai même vu en direct. Porto-Juve, je l'ai fait en replay. Donc j'ai bien en tête, mais en même temps, il n'y a pas non plus un milliard de choses à dire. J'ai plus les stats de centre en tête, mais c'est aberrant parce que si tu fais le ratio par minute, je pense que c'est supérieur à la fois les stats de Navas par rapport à celles de Cuadrado et les stats générales de centre par rapport à celles de la Juve, parce que globalement, c'était ça, c'était centre de Navas dans la boîte. Je pense qu'il en fait 16 et qu'il doit y en avoir genre 38 dans le jeu, quelque chose comme ça de Séville. Enfin, vraiment un truc très redondant. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dortmund fait son bloc médian, mais en fait un bloc bas, où Séville fait vraiment un très bon début de match, et ça fait en gros pour que les gens, je pense que peu de gens ont vu ce match et que peu de gens le feront en replay après nous avoir écouté, mais globalement ça ressemblait beaucoup à la première demi-heure du match entre Paris et Barcelone avec Séville dans le rôle de Barcelone, c'est-à-dire que c'était gros temps fort, occasion, balle qui traîne, on récupère la balle directement dès qu'elle est perdue, on la remet dans la zone, il n'y a pas non plus un milliard d'énormes occasions, mais le temps fort ne s'arrête jamais et Dortmund n'a pas vraiment voix au chapitre. Dortmund ouvre le score sur l'une des premières. Alors c'est pas une sortie de balle ni une contre-attaque, c'est l'une des rares fois où ils sont allés presser un peu haut, où Koundé perd un duel à l'épaule. Je crois que c'est face à Delaney. Ensuite c'est Reus qui récupère, qui centre pour Haaland, mais ça sort totalement de nulle part. C'est en plein temps fort à la 35e, plein temps fort de Séville à ce moment-là. Et là, ensuite c'est un peu équilibré, mais Séville reste quand même plutôt dominateur. Et sur la fin de match. La dernière demi-heure, pareil, c'est de nouveau siège du but de Dortmund, sauf que là, il y a des buts, si on a deux, il en faudrait un troisième, mais si le deuxième tombe un peu plus tôt, je pense que le troisième arrive, parce que là, il est à la 96e, 90e plus 6, alors qu'il y a 6 minutes d'arrêt de jeu, l'arbitre laisse une dernière occasion, et sur l'engagement, Séville récupère, et Diego Carlos est seul dans la surface, et il choisit de faire des crochets au lieu de frapper, mais tu te dis, voilà, il y avait 15 secondes à jouer, et sur ces 15 secondes-là, Dortmund a réussi à se faire peur. Donc c'est vrai que là-dessus c'était embêtant. Donc, en fait j'étais assez mécontent devant ce match, à la fois mécontent de par le plan de jeu de Dortmund que je trouvais très minimaliste, très basique, encore plus qu'à l'aller. Et du coup je me dis bon, si tu leur enlèves Haaland, qu'est-ce qui reste? Je pense sincèrement que c'est le joueur qui a le plus d'écart avec le deuxième meilleur joueur dans un club peut-être dans le monde actuellement. J'ai pas souvenir vraiment d'un mec qui soit autant au-dessus de tous ses partenaires, vraiment c'est lui qui fait l'équipe en fait. Hein. C'est là tous les stéréotypes sur oui il marque les buts etc. Dortmund c'est Haaland, bah oui clairement malheureusement. Et donc ça m'énervait un petit peu parce que Dortmund arrivait à proposer des belles choses avec Lucien Favre, même si c'était pas tout le temps parfait. Et deuxième chose, Séville était tellement dans l'incapacité à bonifier cet amphore et dans le recours systématique au centre et le peu de volonté d'attaquer l'axe que en plus avait bon c'est bien mais c'était pas super esthétique en fait. Donc t'avais une équipe qui subissait et l'autre qui attaquait mais qui attaquait pas si bien que ça. Donc c'est plus le scénario, les buts, etc. qui faisait l'excitation et qui donnait de l'intérêt à ce match-là.
En tout cas, on en revient à ce qu'on se disait ensemble au moment où j'avais regardé Séville pour certains, pour un papier sur Koundé pour l'équipe. C'est-à-dire que Séville, si tu les presses pas, ils ne marquent pas. Ou en tout cas, ils ont beaucoup de mal à marquer. Parce que tout chez eux est basé sur l'idée d'éliminer le pressing adverse. Donc s'ils le font pas, les Sousso, Ocampos et compagnie, ils ont quand même beaucoup plus de mal à être décisifs.
Ouais, ça rappelle l'entretien qu'on avait fait avec Damien Da Silva,
oui,
donc au Parana, quand il nous avait dit, ben oui, contre Séville, on avait fait un plan spécial, et c'est vrai que c'était surprenant de ne pas nous voir aller les presser, mais c'était un choix délibéré du coach de ne pas aller les presser, parce que si tu vas les presser, ils vont déjouer ton pressing, et tu peux en prendre 1, 2, 3, etc. Et ils avaient considéré que pour rester en vie le plus longtemps possible contre Séville, en espérant ensuite marquer sur un coup de pied arrêté, sur un contre ou un truc comme ça, et ben justement, il fallait attendre. Voilà. C'était l'idée.
C'est frustrant parce que Séville est ultra fort sur deux phases très importantes aujourd'hui, c'est les sorties de balles parce qu'ils peuvent casser n'importe quel pressing et leur pressing haut parce qu'ils embêtent n'importe quelle sortie de balle adverse. Par contre, pour marquer des buts, ils ont du mal. Donc c'est quand même complètement con. Mais je pense que s'ils arrivent à valider 2-3 recrues, peut-être un peu plus douées et un peu plus complètes que certains éléments offensifs.
Après, je pense que s'ils veulent Papou Gomez, c'était aussi pour ça. Hein.
S'ils sont ils l'ont cherché, pris, là, il est rentré d'ailleurs.
Oui, mais c'est pour essayer d'améliorer cette séquence-là, de séquence plus construite dans le camp adverse, parce que lui, avec son pied, il est capable d'aller chercher des bonnes positions au deuxième poteau, mais qu'on n'a pas encore vu pour l'instant.
Bah, là, en plus, notamment sur son entrée, mais j'avais déjà remarqué sur d'autres matchs, en fait, on a l'impression qu'il cherche vraiment des combinaisons, des choses comme ça, et qu'en fait, il ne retrouve pas les repères spatiaux qu'il avait à l'Atalanta. Vraiment, des fois, et j'ai pas l'impression de faire du Charles Bietri en inventant des choses, en me prenant pour les joueurs et en allant beaucoup trop loin. Mais vraiment,
mais Christophe, attention, parce que Papou Gomez a appris à subir la pression en allant faire de la pêche. Et c'est ce qui lui a permis d'apprendre à être patient.
Les auditeurs de Coparena auront cette référence. Mais ouais, non, mais des fois, tu le voyais regarder dans des zones, en fait, typiquement le débordement du latéral ou le central qui va apporter, etc. Sauf qu'en fait, il regardait pas dans les bonnes zones et il mettait des ballons en retrait pour Fernando ou autre. Et tu sentais qu'il est plus dans ce délire qu'il peut avoir au métalliste, etc. Je suis sur faux pied. Je rentre et je centre, quoi, des choses comme ça. Il était plus dans le collectif, mais il n'a pas les bons repères. Non, mais juste pour pas faire trop de monologue non plus, mais t'as raison sur Séville.
C'est parti.
Mais en plus, non, là, je vais vraiment le faire court. Mais c'est d'autant plus embêtant que la phase où ils sont très forts sur la sortie de pressing, ils prennent deux buts comme ça, un à l'aller, un au retour. Parce que justement, ils sont quasiment jamais pressés, donc peut-être qu'ils sont un peu trop tranquilles. Et Dortmund a piqué de temps en temps sur, en gros, un bloc médian qui devient agressif, qui devient un pressing, mais en partant d'assez loin, avec Bellingham qui a fait des sorties comme ça, avec Delaney qui a fait des sorties comme ça. Et en plus, sur cette force-là, ça te coûte des buts, finalement. Donc c'est, je pense que leur sortie de pressing, t'as besoin qu'il y ait un pressing constant en face pour qu'ils répètent les trucs. Quand ils voient pas la menace arriver, ils peuvent être un petit peu trop tranquilles et Koundé, sur ce match-là, se fait prendre là-dessus.
Moi, j'ai qu'une envie, c'est que Haaland signe à Liverpool pour que Jurgen Klopp retrouve le bonheur. C'est vraiment... parce que je pense que dans... Un mec qui peut presser comme ça tout seul une ligne défensive à Liverpool, ça pourrait être éclate. Bon, après, ça me dérangerait pas non plus, évidemment, personnellement. Ça serait plutôt sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a... Ah non, Christophe, un petit point quand même sur...
Sur la séquence
qui nous a failli qui a failli nous faire nous engueuler parce que je ne comprenais pas de quoi tu parlais à un moment sur la séquence où Haaland met un début de l'année mais c'est annulé parce que je ne sais combien de temps avant Koundé a fait une faute qui du coup le donne un penalty qu'il rate, qu'il retire parce que Bounou était parti trop tôt, qu'il marque et après lequel il va clasher Bounou qu'il avait clashé avant sur le premier penalty arrêté et du coup il y a des joueurs de Séville qui le coursent mais une fois qu'ils s'approchent de lui ils ont peur. Comme quand je faisais des gumballs au collège et que c'était un mec trop costaud qui gagnait et qu'au moment d'aller le cogner, j'avais trop peur parce qu'il avait de la fumée qui sortait des épaules et ça m'a rappelé exactement la même chose. Et il y a eu 5-6 minutes de football Christophe, où je pense que tu étais plié dans ton canapé.
Alors déjà, beaucoup d'informations dans ton monologue. Pour les gens volontaire. Qui ne connaîtraient pas, le gumball est un jeu que tu faisais qui ressemblait à la patate chaude au collège, où le dernier à avoir la gomme à la sonnerie devait ouais. Se faire taper par tout le monde. Et
cette obligation.
Et sinon ouais, bah t'as bien résumé le truc. Je pense, après réflexion, après avoir lu les trucs, etc., quand le but est annulé à Haaland pour faute, parce qu'il met un coup d'épaule. Alors, ses coups d'épaule à lui sont plus violents que mes coups d'épaule à moi.
Voilà. Pour moi, les coups d'épaule, il est mutuel. C'est juste que lui est mille fois plus costaud que Diego Carlos.
Bah, je pense, mais c'est comme Shaquille O'Neal à l'époque où tu lui sifflais les fautes juste parce qu'il avait le malheur de faire le même impact, mais à des gens qui faisaient 40 kilos de moins. Mais je pense que du coup, il refuse le but, mais en voyant les images du but refusé, ils en profitent pour, enfin, de cette faute-là, ils en profitent pour voir qu'il y a un tirage de maillot 30 secondes avant. Et du coup, ça leur permet un peu de retomber sur leurs pattes en disant, bon, on va donner le penalty, mais je suis pas 100% sûr qu'ils annulent le but ou que c'est pas juste, l'antériorité de la faute, mais je pense que dans l'absolu, t'es censé laisser l'avantage. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui se joue, et puis en plus, le penalty à retirer, il est donné à retirer, la balle a traversé le terrain et Séville en phase d'attaque, je me demande si c'est même pas un corner ou autre. Donc c'est-à-dire, il est à retirer, mais longtemps après. En plus, c'est double arrêt, c'est-à-dire que Bounou le sort, mais il sort aussi la reprise, qui est presque encore plus dure à sortir que le péno. Et puis oui, le chambrage. D'ailleurs, bon, après, c'était dans l'émotion du moment, mais ils ont terminé à moitié en rigolant bras dessous, à la fin de match. Bounou et Haaland, donc du coup, bon esprit entre les deux. En même temps, t'as pas trop envie de t'énerver avec Haaland, je pense. Mais oui, non, c'était l'un des moments amusants du match, où Julien Momon était aussi arrivé juste avant, et avait du mal à comprendre ce qui se jouait. Je pense qu'il a dû se demander où est-ce qu'il atterrissait. Mais oui, c'était le moment rigolo.
Mais j'ai pas l'impression qu'Haaland s'énerve vraiment quand il clash. C'est vraiment, c'est genre, ah bah tu m'as clashé, je vais te clasher, et que ça l'amuse. J'ai l'impression que tout l'amuse. Tu vois, il y a un espèce de second degré permanent chez ce mec. Tu vois, il a l'air un peu fou comme Arshavin qui donnait des interviews lunaires il y a quelques années. Tu sentais que le mec était sur un autre plan astral. J'ai vraiment l'impression qu'il est pas du tout comme, enfin, qu'il est unique dans sa façon de voir le truc.
Et est-ce que tu penses qu'il est totalement conscient des proportions physiques qu'il a ou pas? C'est-à-dire, typiquement, sa célébration du premier but, il soulève Marco Reus qui décolle. Genre, il le soulève comme, c'est Simba, c'est ça, dans le Roi Lion?
Entre ça et Aladdin, putain, les deux tocards.
Vas-y. Non, mais vraiment, parfois, j'ai l'impression que c'est d'un mec qui se rend pas compte qu'il joue avec des enfants. Parce que ça fait
moi, j'ai surtout l'impression qu'il est comme l'univers en expansion permanente. J'ai l'impression qu'il prend des épaules toutes les semaines. Entre le moment où il est arrivé à Dortmund et aujourd'hui, même entre le moment où on a vu les premières fois à Salzbourg et la fin de son passage à Salzbourg, enfin, je sais pas, mais c'est un peu effrayant. Alors, je suis pas fan de l'idée de prendre des épaules tout le temps, mais lui, je sais pas qui peut aller gagner un duel avec lui à l'épaule. À une époque, peut-être Boateng aurait pu. Moi, là, il est un peu plus en fin de carrière.
C'est-à-dire qu'en plus, il prend de la vitesse, lui. Donc, c'est-à-dire, si le mec a les mêmes épaules, genre sous le, il a les mêmes épaules que Haaland, sauf qu'il y en a un qui arrivera à 30 km/h et l'autre à 20. Donc, forcément, c'est comme les accidents de voiture.
Il y a un côté train lancé, passage à niveau, qui fait un peu peur, ça décélère pas, donc c'est un peu impressionnant.
Juste voilà, sinon, je pense qu'on va assez vite boucler en passant sur les paris. Juste dire quand même que là, alors on n'a pas vu Liverpool parce qu'on enregistre à chaud et du coup on regarde un match après l'autre, on n'aime pas en regarder deux pour ensemble pour vraiment être précis sur l'analyse, mais là les qualifiés, ils sont, alors encore une fois on se prononce pas sur Liverpool, mais ils ont des failles et des failles qu'ils ont en championnat, et globalement je pense que ça sera beaucoup plus relevé sur la semaine suivante. Mais là tu vois, Dortmund est 6e de Bundesliga, est loin d'être sûr d'aller en Ligue des Champions l'an prochain. Paris est 2e de Ligue 1 et fait sa plus mauvaise saison depuis quelques temps. Porto est 3e du championnat portugais et même pas sûr de le rester. Benfica est juste derrière. Liverpool, encore une fois on l'a pas vu, mais Liverpool n'ira sans doute pas en Ligue des Champions, peut-être même pas en Ligue Europa par la voie du championnat. Donc c'est pour dire que
ils iront en Conference Cup.
Voilà. Non mais c'est pour dire que je pense qu'il y aura City, le Bayern, peut-être une troisième équipe type Real, à voir ce que fera Paris ou autre. Mais là pour l'instant le niveau de cette Ligue des Champions, il y a quand même beaucoup d'équipes qui se qualifient. Mais genre là, Porto, Dortmund, le niveau plafond, je le trouve quand même très très bas en fait, par rapport à un quart de finale Ligue des Champions.
Ouais, après, ça colle à ce qu'on voit sur la plupart des championnats où l'enchaînement des saisons Covidées donne pas forcément lieu à des collectifs impressionnants.
Oui.
Le Bayern, c'était un peu un espèce de d'épiphénomène la saison dernière, qui d'ailleurs était moins fort après Covid qu'avant Covid. Le dernier match avant Covid contre Chelsea était impressionnant, et quand ils reviennent, alors ils font toujours des bons matchs, hein, mais c'est pas le ils sont pas aussi impressionnants. Et ça continue depuis, d'ailleurs, ils sont moins forts cette saison en Bundesliga, donc on verra, mais c'est sûr que le plateau n'est. Alors les noms sont alléchants, mais les performances derrière les noms sont pas aussi fortes qu'il y a. Bon, un truc qu'on dit très souvent, mais qu'il y a 4, 5, 6 ans maintenant, où t'avais l'impression qu'il y avait 6-7 équipes qui étaient ultra fortes, et aujourd'hui t'en cherches 2-3 du même niveau. Voilà pour ce point. On va retrouver les paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Et on va redonner vie à Florent, qui va nous donner ses deux pronostics. Florent qui est, je vais pas refaire la même vanne, mais qui est très Ligue 1 et qui va nous proposer deux paris sur notre championnat de paris buteur. Florent, je te laisse commencer.
Ouais, deux paris buteurs, à la fois parce que ce sont des joueurs qui ont marqué il n'y a pas très longtemps avec leurs équipes respectives et qui affrontent des équipes dont les défenses n'ont jamais vraiment offert de grosses certitudes. À la fois dans la saison, mais surtout dans ce moment, dans les dernières semaines. Donc les deux matchs, c'est Dijon-Bordeaux et c'est Lorient-Nice. Donc c'est deux matchs du fameux multi-ultra rythmé du dimanche 15h, désormais avec un.
C'est chacun, il y a chacun à ses combats, et j'ai l'impression que c'est ton combat, Florence, celui-là maintenant.
Oui, le nouveau multiplex. J'ai beaucoup de mal avec le nouveau multiplex. Voilà. Alors je sais qu'un multiplex de 4 matchs. C'est compliqué, mais d'autres avaient réussi à en faire quelque chose de regardable et de rythmé. Donc j'espère que le nouveau diffuseur va y arriver à un moment donné.
Après, est-ce qu'on est les mieux placés,
Pour
nous,
parler de
dans du
rythme,
banc,
c'est vrai.
pour parler de rythme?
Mais on ne diffuse pas le multiplex, donc
Ouais.
c'est pas la même chose. Bref, tout ça pour dire que donc Lorient affronte Nice dimanche à 15h. Et à Lorient, s'il y a un joueur qui tourne assez fort ces derniers temps, c'est l'attaquant, c'est Terem Moffi. Qui a marqué 8 buts sur l'ensemble de la saison, mais qui a surtout marqué des buts assez. Pas forcément récemment, parce que Lorient n'a pas beaucoup marqué, mais qui avait mis un doublé, notamment face à Monaco, lors du 2-2 qu'ils étaient allés chercher il y a mi-février. Qui est resté un petit peu muet ces derniers temps, mais qui reste un joueur toujours dangereux et toujours intéressant à voir. Et
Il avait eu une série folle pour appuyer ton propos,
fin
Florent, entre
janvier.
décembre et janvier, où il
Ouais.
avait marqué sur 5 matchs de suite.
Voilà, et
Et
le.
Lorient avait battu Dijon, le PSG.
Ouais, c'est le moment où où ils avaient un petit peu sorti la tête de l'eau. Mais le fait d'affronter Nice, qui est quand même une équipe dont la défense est loin d'être très efficace, puisque le dernier clean sheet de Nice remonte au début février, lorsqu'ils avaient battu Angers 3-0 dans un match où ils avaient ouvert le score très vite. Mais c'est pas dans leurs habitudes depuis le début de la saison, les clean sheets. Ils doivent, en avoir 4 ou 5 maxi. Et c'est vrai que la charnière installée depuis quelque temps avec Saliba, avec Todibo et parfois aussi avec Nsoki qu'il faut ajouter à l'équation, c'est pas forcément l'assurance tout risque. Et je me dis qu'un attaquant aussi malin que Mofi peut leur poser problème et du coup marquer tout simplement et permettre peut-être à Lorient de gagner. Ça fait pas partie du pari. Mais donc but de Mofi face à Nice, c'est coté à 2,90 et c'est dimanche à 15h.
Merci Florent pour ce premier pari. Tu peux enchaîner avec le deuxième qui va concerner ton équipe de cœur.
Oui, et un pari contre les Girondins qui se déplacent sur la pelouse de Dijon, donc dimanche 15h. Et c'est vrai qu'en termes de dynamique, si Dijon veut prendre des points contre une équipe, je pense que c'est le moment ou jamais, parce qu'en plus ils en ont vraiment besoin, ils n'ont que 15 points. Et je pense que s'ils n'arrivent pas à battre Bordeaux ce week-end, ça sera quasiment fini pour eux, déjà que c'est très très mal embarqué.
Ouais.
Hein,
Ils sont à 10 points des barrages, 12 points du maintien.
C'est ça. Et vu la dynamique bordelaise, c'est une bonne opportunité pour essayer de lancer quelque chose côté Dijonais. Donc pour lancer quelque chose, il faudra marquer. Et qui pour marquer à Dijon? Bah, je suis parti sur Roger Assalé pour une raison simple, c'est qu'il a marqué face à Brest le week-end dernier. Tout simplement. Et sachant qu'en termes de cote, ils étaient plusieurs entre 4 et 5. Il y avait Assalé, il y avait Konaté aussi, Moussa Konaté, mais qui débute pas tout le temps. Là, en fait, je me dis que Mama Baldé aussi à 4,40. En fait, je me dis que vu qu'il a marqué le week-end dernier, qu'il a été sorti par Linares en fin de match, etc., il va peut-être être reconduit. Et du coup, il va pouvoir jouer et affronter les Girondins. D'autant plus que côté Dijonais, je me remets le match sous les yeux face à Brest. Donc, à Salé, c'était plus un... C'est un joueur qui peut se balader sur tout le front de l'attaque et sur tout le front de la défense bordelaise. Si tu es un petit peu mobile et que tu es capable d'aller chercher des espaces dans le dos des latéraux, en ce moment, tu peux avoir des situations, notamment côté droit, où ça avait souvent échappé à la vigilance des défenseurs. Donc voilà, un but d'Assalé face aux Girondins et la cote est à 4,40.
Merci Florent. On rappellera que Bordeaux a perdu 7 de ses 8 derniers matchs.
Oui.
Après une série de 3 victoires contre Lorient, Nice et Angers. Qui avait replacé Bordeaux, je crois, pas loin de la 5e ou 6e place.
Oui.
Mais tout va très vite.
Et voilà, 15e.
On sent cette joie à la fois mêlée de dépression. Florent, Christophe, à toi pour tes deux paris qui, par contre, vont être un peu plus européens. Tu nous emmènes notamment en Angleterre.
Oui, en Angleterre. Mon premier pari, Leeds-Chelsea. Je combine le résultat avec un buteur, je combine la victoire de Chelsea et le but de Jorginho, c'est un 5,80. Chelsea est meilleur que Leeds. Chelsea a gagné quasiment tous ses matchs depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Je crois que c'est 8 victoires en 11 matchs et 9 clean sheets. Si mes sources sont bonnes, et a priori elles le sont. Donc ça, c'est pour l'aspect victoire. Leeds qui, en plus, voilà, il y a quelques blessures. Là encore, le dernier match, une défaite 2-0 face à West Ham. Enfin, il y a quand même un côté... Alors, je sais pas si c'est rentré dans le rang, hein, mais il y a moins de folie. Tout le monde est un peu plus fatigué. Le maintien est globalement assuré. Donc ça va terminer en milieu de tableau, ni plus ni moins. Et pour l'aspect Jorginho, en fait, c'est simplement le côté penalty. Alors, il faudrait qu'il joue. Mais bon, s'il joue pas, le pari sera décidé neutre. Mais Chelsea est troisième en penalty obtenu, même en penalty marqué. Penalty obtenu, c'est un petit peu différent, avec 7, sachant que Leicester et Manchester sont à 8. Donc Chelsea se procure beaucoup d'occasions de penalty. On a encore eu un sur le dernier match où Jorginho est marqué avec son fameux petit saut. Le petit saut de forain, comme tu l'appelles, Raphaël.
Qui est pas du tout élégant, hein. Je trouve ça très très moche visuellement.
Oui,
c'est efficace, d'accord, mais quelle horreur.
Oui, je sais. C'est l'un de tes combats et je suis fier que tu ne baisses pas les armes. Et de l'autre côté, penalty concédé. Leeds est premier ex aequo avec 9. Avec qui, Raphaël?
En Première Ligue?
Oui.
Liverpool.
Bien sûr, avec Liverpool, sinon je ne t'aurais pas interpellé. Donc voilà, quand une équipe qui marque beaucoup de penalty rencontre une qui en concède beaucoup, je pars du principe que le tireur de penalty va marquer. Et comme Chelsea ne prend quasiment pas de but, bah j'imagine que même à 1-0 sur penalty, ça suffira pour l'emporter. 5,80, bon, en ce moment, je suis pas trop en réussite, c'est un euphémisme. Donc je pars sur un truc qui se base pas mal sur les stats, on va dire ça comme ça.
Je regarde même plus les derniers, les paris qu'on avait fait, je vérifie même plus. C'est un peu comme quand tu... À l'école, tu rends un devoir, mais tu sais qu'il est mauvais, t'as pas envie de le relire. Tu te dis, ah, franchement, ça me fait mal de relire ce que j'ai produit. Tu le donnes et puis tu verras bien. Là, c'est un peu pareil. On ne se retourne plus vers nos paris précédents. On ne fait qu'avancer vers d'autres défaites.
Sachant que
ton deuxième pari.
J'ai eu quand même eu un pari exceptionnel où j'avais parié, je crois, victoire ou nul de Levante. Je crois que j'avais parié victoire. Et je crois que Levante a perdu en concédant quasiment 6xG.
Ah oui, contre la Real Sociedad.
Contre la Real Sociedad avec une barre, un penalty raté par la Real, 3 sauvetages sur la ligne. Donc vraiment, bon, ils avaient joué 120 minutes en coupe pendant la semaine, je pouvais pas anticiper cette prolongation. Mais là, j'étais totalement tombé à côté. Je reste quand même en Espagne avec un pari Retafe Atlético, victoire de l'Atlético à 2. C'est pas ultra ambitieux. En même temps, la cote était tellement donnée que j'ai pas voulu prendre le risque. J'ai envie d'un peu de me remettre en selle, me remettre en confiance. Donc je joue pas des moins 1, des moins 2. Simplement, quand une équipe qui a gagné 19 de ses 26 matchs et est en tête du championnat en affronte une qui est 15e avec 13 défaites en 26 matchs, j'ai tendance à penser que domicile extérieur ça jouera pas beaucoup et que la meilleure des deux l'emportera. Et je combine à ça le fait que la forme, alors là j'ai aperçu un petit peu l'Atlético tout à l'heure, c'était pas trop mal, une victoire de 1 face à Bilbao qui est l'une des équipes en forme de cette deuxième partie de saison. Et Retafe, je vais pas te faire le détail, mais depuis une victoire face à Huesca, qui en plus pas une équipe incroyable, le 20 janvier, il y a eu un nul face à Alaves, une victoire 3-0 face à Valence, qui est un peu en déclin en ce moment, c'est un peu compliqué. Et sinon, c'est que des défaites. Donc on est sur 3-5 défaites en 7 matchs. Donc bon, c'est Retafe, ça va pas du tout, sachant qu'il y a eu donc cette victoire face à Huesca, une face à Elche qui est aussi une équipe de bas de tableau avant, et sinon c'était encore une série de 3 défaites auparavant. Donc bref, Retafe avait plutôt bien commencé, et heureusement, parce que sinon je pense qu'il serait relégable. Donc voilà, logique du classement, on n'est jamais à l'abri d'une rébellion machin, mais Retafe qui perd contre tout le monde face à l'Atlético, qui doit assurer son titre avec le duo Luis Suarez Marcos Llorente qui roule sur tout le monde. Je à deux, franchement, allez-y, pas les yeux fermés parce que c'est moi qui vous le conseille, mais je pense qu'il faut y aller quand même.
La Liga qui a toujours, pour moi en tout cas, 4-5 équipes où je les considère toujours plus comme des équipes de Segunda que des équipes de Liga. Tu vois, par exemple, Osasuna, par exemple, je suis incapable de te dire depuis combien de temps ils sont en Liga. Ça se trouve ils viennent de monter, ça se trouve il y a 3 ans, je ne sais pas.
Après c'est une équipe. Après le truc c'est que ils viennent peut-être juste de monter, mais ils étaient peut-être en Liga il y a 3 ans. Ils ont fait l'ascenseur, quoi. C'est une sorte de camp en ce moment. Ça,
c'est pareil pour Valladolid. C'est pareil pour Elche.
Ouais.
Pareil pour Huesca. C'est vraiment. Il y en a d'autres comme ça en Liga et en Serie A, pardon. Et je sais pas. En Bundesliga, je pense que je les calcule tellement pas que j'y pense pas.
Genre Fribourg, tu calcules pas, je suis sûr.
Ouais, genre les Bielefeld et compagnie.
Ouais, Bielefeld, ça vient de monter.
Ouais. Ouais.
Ou Bielefeld, ouais, je sais pas comment.
Mais Osasuna, c'est close. Un peu piégeux parce qu'en plus, ils ont quand même fait la Ligue Europa avec Nekunam qui élimine Bordeaux, si je dis pas de bêtises,
oui,
Florent.
Absolument.
Donc, ils ont en plus ce côté un peu club historique que Cadiz ou autres n'ont pas. Je sens que Valladolid, il y avait Ben Arfa l'an dernier et t'as Ronaldo président, donc ça peut faire des marqueurs temporels pour savoir qu'ils étaient déjà là l'an dernier. Mais oui.
Ouais. Il faut que je me réintéresse à la Liga. Là, je suis en train de regarder l'effectif d'Osasuna. Je connais 3 joueurs. Il y a des joueurs que je découvre. Je ne sais pas que Cagliari était à Osasuna.
Oui, c'est pour ça
que
tu ne vas pas le faire à l'antenne non plus.
Non, mais attends, je peux te citer aussi Darko Brasanac, voilà, que je ne connaissais pas. Merci messieurs pour cet épisode de spécial Ligue des Champions. Quand se retrouve-t-on, Florent ?
Eh bien, la semaine prochaine, on verra en fonction de ce qu'il se passe ce week-end, si on fait un podcast le lundi ou en début de semaine. Et sinon, on se retrouvera à l'issue des rencontres de Ligue des Champions. Ça se trouve, il y en aura un le mardi, un le mercredi, si les matchs sont exceptionnels. Mais je crois qu'en termes de suspense, on vient de traverser la semaine où on devait être le plus servi, je crois, en théorie. Donc on verra, on jugera sur pièce quand on arrivera les soirs des matchs. Mais au pire, on sera là mercredi soir.
Oui, pas un week-end exceptionnel en termes de matchs. Dimanche, un petit Monaco-Lille tout de même, qui pourrait être important.
Ça, on verra
mais
ça.
Mais peut-être que ça ne se fera pas tout un épisode. Ciao, à bientôt.
Salut.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.